Espace 2, David Collin.
Bonsoir, bienvenue à vous dans Sonar. Voici en nouvelle diffusion et à l'occasion de l'anniversaire de Arthur Conan Doyle, 150 ans après sa naissance, 1859-2009, l'une de ses créations les plus populaires, le mythe de Sherlock Holmes.
Sonar.
Sonar, imaginaire.
Alors, Watson, vous n'avez pas l'intention d'investir votre argent dans les valeurs sud-africaines.
Mais comment diable le savez-vous?
Allons avouer que là, vous êtes surpris.
Ça, je l'avoue.
Je devrais l'écrire sur une feuille de papier et vous faire signer.
Pourquoi?
Parce que dans deux minutes, vous direz que c'était d'une simplicité enfantine.
Je vous assure que je ne dirai pas une telle chose.
Voyez-vous, mon cher Watson, il n'est pas très difficile de construire un raisonnement à partir d'une série de déductions, chacune dépendant de celle qui la précède et étant aussi la plus simple du monde. Si, après avoir fait cela, on élimine tout ce qui vient s'intercaler au milieu et que l'on ne présente à un auditoire que le point de départ et la conclusion, on peut produire un effet très spectaculaire. Quoique parfois cet effet ne soit que factice. Je peux dire, après avoir regardé le sillon situé entre votre index gauche et votre pouce, que vous avez décidé de ne pas investir votre petit capital dans des terrains aurifères.
J'avoue ne voir aucun rapport.
Je m'y attendais, mais je vais vous démontrer que ce rapport existe. Voici les anneaux manquants de cette simple chaîne. Vous aviez de la craie entre le pouce et l'index quand vous êtes revenu du club hier soir. Vous mettez la craie de là? Quand vous jouez au billard et que vous assurez votre queue. La seule personne avec qui vous jouiez, c'est avec Thurston, qui, selon ce que vous m'avez dit il y a 4 semaines, avait pris une option sur une exploitation en Afrique du Sud qui expirait dans un mois et qu'il vous avait offert de la partager avec lui. Votre chéquier est enfermé dans mon tiroir et vous ne m'en avez pas demandé la clé. Conclusion, vous n'avez pas l'intention d'investir votre argent de cette façon.
D'une simplicité enfantine.
Je ne vous le fais pas dire. Tous les problèmes deviennent très simples quand on vous en donne la solution. Pam, 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 pam.
Holmes, pourquoi êtes-vous aussi joyeux? Vous êtes inoccupé, vous n'avez pas d'affaires compliquées à résoudre, ce qui d'habitude vous rend de très mauvaise humeur et vous fait sombrer dans l'infernale léthargie de cette cocaïne.
Si une fois dans votre vie vous vous serviez des principes de logique que je m'efforce de vous enseigner.
Sherlock Holmes est joyeux. Donc, Sherlock Holmes doit avoir une affaire.
Qui n'a pas entendu parler de Sherlock Holmes, le fameux détective conseil du 221B Baker Street, situé au cœur de la Londres victorienne et inventé par Sir Arthur Conan Doyle? Un personnage qui domina vite les propres désirs de postérité de son auteur au point qu'il le fit mourir aux chutes de Reichenbach, à Meringen, dans le Berland bernois, avant de devoir le ressusciter 4 ans plus tard sous la pression de ses propres lecteurs. Sherlock Holmes, ce sont 56 nouvelles, 4 romans, ce qu'on appelle très religieusement le canon holmésien, la base écrite par Conan Doyle, sur laquelle, par la suite, toutes les suppositions seront faites, tous les écrits seront possibles. Car peu de personnages imaginaires ont suscité autant de lecteurs, d'admirateurs, de commentaires et de pastiches. La structure de ces histoires, les détails et la véracité de ces personnages, dont le fameux docteur Watson, ont favorisé l'imaginaire de nombreux écrivains et passionnés. Parmi eux, les pataphysiciens et oulipiens de Loulipopo, l'ouvroir de littérature policière potentielle dont Jacques Baudou et Paul Gaillot.
Les intéressés dans le personnage de Sherlock Holmes, c'est...
Les Sherlock Holmes annotated de Baring Gould.
Baudou et Gaillot qui ont initié les études holmésiennes en France, études très sérieusement imaginaires qui ont ouvert la voie de plusieurs sociétés consacrés à l'étude et aux commentaires, dont les évadés de Dartmoor, de François Hoff à Strasbourg.
Nous éditons un bulletin qui est en principe bisannuel, qui s'intitule « Le carnet d'écrou ».
Mais les sociétés Sherlock Holmes ont commencé à Londres, puis aux États-Unis, avant d'essaimer partout dans le monde et même au Japon, de revenir en Suisse au lieu du sherlockisme, comme diraient les Américains, avec un musée à Lucent initié par Adrian Conan Doyle et la société d'études holmésiennes de Suisse romande que préside Vincent Delay.
Au milieu des reliefs du petit-déjeuner, passe une pièce où Holmes et Watson vivent, mais où ils ont rassemblé justement divers souvenirs, une gravure qui représente les chutes du Reichenbach.
Et un musée à Meringen, près des chutes de Reichenbach et de l'hôtel où seraient passés Holmes et Watson, l'hôtel du sauvage dirigé aujourd'hui par Ferdinand Salverda.
Les architectes, ils ont fait une copie exacte, les ornements, même les fenêtres. Ils ont une propre histoire.
Vous entendrez également Éric Poindron, écrivain et éditeur.
Sherlock Holmes, pour moi, c'est un des personnages les plus étonnants, évidemment, de... J'ai pas envie de dire de l'histoire de la littérature, mais de l'histoire de la vie.
Pierre Bayard, auteur de l'affaire du chalet Baskerville, qui remet en cause les conclusions de Sherlock Holmes.
Conan Doyle pensait, et finalement à juste titre, que Sherlock Holmes était sa créature, et lui appartenait.
Et Bob Garcia, écrivain, et qui s'est amusé à comparer le Tintin d'Hergé avec le Sherlock Holmes de Conan Doyle.
Tintin se découvre l'âme d'un détective, et voire même de pas n'importe quel détective, l'âme de Sherlock Holmes.
Le mythe Sherlock Holmes, c'est une émission de David Collin réalisée par Bruno Seriba. Lecture Jacques Roman et Isabelle Carcelès.
À étudier les méthodes du fameux détective.
Élémentaire.
Un mythe et un lexique en forme d'énigme. Une enquête que vous pouvez résoudre, vous aussi, en écoutant bien les initiales de certains chapitres. Les initiales qui vous permettront de découvrir quelques lettres à assembler savamment et qui devraient donner au final deux Sherlock Holmes, deux fois Sherlock Holmes. Voilà, l'énigme est posée, le portrait mélangé commence et toutes les solutions, écoutez bien, toutes les solutions sont possibles.
Sonar.
Portrait. Portrait.
Sherlock Holmes ne paraissait certes pas difficile à vivre. C'était à sa manière un homme tranquille avec des habitudes invariables. Il était rarement debout après 10 heures du soir, et le matin, immanquablement, avant que j'eusse quitté mon lit, il avait pris son petit déjeuner et était sorti. Tantôt il passait la journée au laboratoire de chimie, tantôt dans les salles de dissection. De temps à autre, il faisait une longue marche qui, semblait-il, le conduisait parmi les quartiers les plus malfamés. Dans ses accès de travail, il déployait une énergie à toute épreuve. Puis venait la réaction. Pendant de longues journées, il restait étendu sur le canapé sans rien dire, sans remuer un muscle, depuis le matin jusqu'au soir. Alors son regard devenait si rêveur et si vague que j'aurais pu le soupçonner de s'adonner à quelque narcotique. Mais sa sobriété en tout, sa tempérance habituelle, interdisait une telle supposition. À mesure que les semaines passaient, je sentais croître et s'approfondir l'intérêt qu'il m'inspirait, ainsi que ma curiosité touchant les buts de son existence. Sa personne même, son apparence, ne pouvait laisser de frapper l'observateur le plus distrait. Il mesurait un peu plus d'1,80 m, mais il était si excessivement mince qu'il paraissait beaucoup plus grand. Ses yeux étaient vifs et perçants, sauf dans les intervalles auxquels j'ai fait allusion. Son nez aquilin et fin donnait à sa physionomie un air attentif et décidé. La forme carrée et proéminente de son menton indiquait aussi l'homme volontaire. Ses mains étaient toujours tachées d'encre ou maculées de produits chimiques. Cependant, il possédait une extraordinaire délicatesse du toucher. J'eus souvent l'occasion de le constater en le regardant manier ses fragiles instruments de chimie. Ses ignorances étaient aussi remarquables que sa science. De la littérature contemporaine, de la philosophie et de la politique, il ne semblait savoir à peu près rien. Un jour que je citais Thomas Carlyle, il me demanda le plus naïvement du monde qui il était et ce qu'il avait fait. Ma surprise atteignit son paroxysme quand je découvris incidemment qu'il ignorait la théorie de Copernic et tout le système solaire. Qu'un être humain instruit, vivant en ce 19e siècle, ne sut pas que la Terre tourne autour du Soleil, me semblait un fait si extraordinaire que j'avais peine à y croire. Conan Doyle, Sherlock Holmes.
Alors Sherlock Holmes est un personnage évidemment de fiction pour certains, mais tous les gens qui sont des lecteurs savent très bien qu'on donne tous les crédits à nos personnages romanesques. Et je défie quiconque de penser que ce personnage n'existait pas. D'ailleurs, on le rappellera, la première personne qui a été déçue du décès, ou en tout cas de la disparition de Sherlock Holmes, fut la maman de Conan Doyle. Et nous autres enfants, si on n'avait plus Sherlock Holmes, si on n'avait plus des parodies, des pastiches, nous serions orphelins. Et je crois que c'est aussi l'immense pouvoir, non pas de la littérature, parce que la littérature n'a aucun rapport avec ça, mais de la fiction, ce qui est une nuance totale, c'est de s'immerger dans la fiction et de partir et de vivre dans la fiction et d'être tout à fait heureux dans cette conscience qui est une espèce de décalage-temps. Il y a une des plus belles nouvelles de Sherlock Holmes qui s'appelle Le ruban moucheté. Et Sherlock Holmes reçoit une espèce d'immense colosse comme ça qui lui dit « Ne vous mêlez pas de mes affaires ». Et il prend un tison ou un tisonnier. Il tord le tisonnier. Et Sherlock Holmes continue à bavarder avec cet homme qui est une espèce de la campagne. Et tout en conversant avec lui, il détord le tisonnier. Et alors là, m'est apparue l'envie de la littérature. C'est-à-dire, comme on pourrait dire aujourd'hui, la science tranquille, la science froide. Sherlock Holmes est aussi boxeur que les gens qui boxent, sauf qu'il ne boxe pas. Parce qu'on sait qu'il est très bon, c'est un escrimeur, on sait que c'est un, on sait qu'il est très habile au pistolet, on sait qu'il est capable, il n'a pas peur. Et je me suis dit, voilà, on pourrait être ce héros, on pourrait devenir ça, on pourrait accomplir ça. Alors après, 20 ans, 30 ans après, en vivant à la campagne, je m'aperçois que j'ai des chiens, grâce à lui. Je m'aperçois que j'ai des armes blanches, grâce à lui, qui sont cachées, dont je ne me sers pas. Je m'aperçois que ces livres, je les relis à peu près tous les hivers, parce que je lis Sherlock Holmes, les parodies, les pastiches, mes amis. Il est un compagnon franc, absolument définitif, toujours, toujours, toujours. Et chaque fois que je perds quelque chose dans ma vie, c'est Sherlock Holmes qui me fait retrouver.
Ah, Madame Hudson.
De mon côté, je vais aller consulter certains documents qui, je l'espère, me donneront certaines indications nous permettant de faire avancer notre enquête. Retrouvons-nous à 1 heure sous l'horloge de la gare de Waterloo. Ceci, bien sûr, si vous avez fini de prendre votre petit déjeuner. Oh, votre revolver. Vous m'obligeriez en le glissant dans votre poche. Les armes sont toujours un excellent argument contre ces forces de la nature qui tordent les tisonniers à enfoncer des nœuds. Ça et votre brosse à dents sont les seules choses dont vous aurez besoin.
Les vrais touristes holmésiens, muets en pèlerins, ont à cœur de visiter la ville en se mettant dans les pas du héros. Certains guides les y aident, ainsi le Sherlock Holmes London, dont l'auteur est M. Tsukasa Kobayashi, professeur de psychiatrie et fondateur du Japan Sherlock Holmes Club.
C'est le Londres de Stevenson dans le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est le Londres de Bram Stoker quand il écrit Dracula, c'est le Londres de Jack l'Éventreur dans les films des années 30. C'est un Londres qui des fois est un petit peu différent du Londres réel, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu comment était Londres à l'époque, on se rend compte que dès les années 10, 20, 30, il n'y a plus de brouillard à Londres, c'est terminé.
À cause du charbon, enfin du charbon.
Exactement, on a arrêté de produire du charbon, en tout cas de se chauffer au charbon. Donc effectivement, autant au moment où Conan Doyle écrivait ses nouvelles de Sherlock Holmes, c'était encore un petit peu le cas, autant au moment où Hollywood met en scène, enfin fait ses adaptations cinématographiques des romans victoriens, le brouillard n'existe plus. Donc ça fait partie du folklore, du fantasme, du Londres qu'on aime et qu'on a envie de garder dans sa tête. Donc c'est ce Londres-là, moi, que j'ai travaillé. Et à chaque fois, par exemple, qu'il y a un chapitre où mes deux personnages sont à la poursuite de l'entité Jack l'Éventreur, ils passent une nuit comme ça, aérés dans une petite ruelle près de la Tamise. Et c'est un quartier que j'ai étudié à partir de plans, de cartes de l'époque, et à partir de romans victoriens que j'avais sous la main. Et à chaque fois qu'une description figurait dans un roman qui était contradictoire par rapport à une information que j'avais dans un ouvrage qui décrivait le Londres réel de l'époque, je choisissais toujours la description du roman victorien. Parce que ce qui m'apportait moins, c'était de dépeindre le Londres tel qu'on le garde, tel qu'il est dans notre fantasme à nous. Voilà. Donc c'est un Londres qu'on ne retrouve pas forcément en mettant les pieds dans la capitale anglaise aujourd'hui. C'est un Londres, par contre, qui est dans le cœur de tous les amoureux des romans victoriens dont je parle dans mon propre livre.
Comme Baker Street.
Forcément, puisque c'est la rue qui sert de départ à l'histoire, c'est la rue avec ce numéro mythique du 221 qui n'existait pas à l'époque, qui existe aujourd'hui.
221B.
Alors 221B ou 221, hein, même chez les spécialistes, avant de faire mon bouquin, je me suis bien renseigné. Il y a ceux qui pensent que l'adresse est 221, il y en a qui pensent que c'est 221B. Parce qu'en réalité, en Angleterre, paraît-il, on ne numérote pas en mettant des lettres comme en France. En France, on peut avoir le 13A, 13B ou le 13 bis, 13 ter. En Angleterre, on ne fait pas ça. Donc cette façon de numéroter la maison, le 221B, était un peu anachronique. Donc certains ont pensé qu'il y avait un peu une entourloupe dans cette histoire. Donc dire 221 Baker Street, ce n'est pas une erreur. On peut dire 221 Baker Street.
À l'époque où Holmes se fut amené à prendre en main l'affaire Irene Adler, il partageait avec moi un confortable appartement à Buckland Street depuis quelques années. Ma profession de médecin m'obligeait parfois à m'absenter plusieurs jours, et à chacun ou presque de mes retours, je m'interrogeais sur l'humeur où je le trouverais en rentrant. Non sans quelque appréhension, je dois bien l'avouer.
Lucan. Cette ville du canton de Vaud, à 25 km au nord-est de Lausanne, possède un château de style gothique et renaissance, qui a appartenu à Adrian Conan Doyle, le fils d'Arthur. Il fit aménager sa propre reconstitution du 221B Baker Street, que l'on peut voir aujourd'hui dans un musée au pied du château.
Allez passer de trois brèves minutes dans cette chambre presque historique. Elle est l'œuvre de l'ancien maître de ces lieux, Adrian Conan Doyle. Celui-ci était le fils du fameux Arthur Conan Doyle, l'écrivain policier plus que réputé et surtout le créateur du détective type Sherlock Holmes. Adrian Conan Doyle a eu l'idée dans les années 1960 de venir s'établir au château de Lucan et d'y déposer les documents et souvenirs du bureau de son père. C'est ici qu'il est décédé en 1970. Il convenait de rappeler la réalisation de ce parfait gentleman et ainsi de lui rendre hommage. Et maintenant, regardons de plus près cette chambre. Nous sommes à Londres en 1897 et nous sommes dans le salon de Sherlock Holmes. C'est ici que son non moins fameux ami, le docteur Watson, vient souvent lui rendre visite. Est-il besoin de rappeler que nous sommes au 221 de Baker Street? Je ne le pense pas. En revanche, il me paraît utile de préciser que tout ce que vous avez sous les yeux est authentique, à l'exception du thé et du beurre. Cigares, tabac, journaux, livres, bouteilles de vin, de whisky et de brandy sont d'époque.
S.I. comme silhouette.
Voilà, c'est une sorte d'archétype du détective qui est symbolisé par cette silhouette de Holmes qui contient deux points qui ne sont pas vraiment dans l'œuvre de Conan Doyle. C'est justement les points qui sont reconnaissables. C'est la pipe recourbée qui n'est jamais mentionnée et qui, semble-t-il, n'était pas réellement à la mode pendant la carrière active de Holmes. Ça veut dire que C'est un article qui est justement un peu anachronique. Et puis la casquette à double visière, qui l'est peut-être un peu moins, parce qu'il est mentionné tout de même que Holmes porte une casquette, mais jamais très très précisément celle-ci. Quoique, il porte une casquette à oreilles rabattables, donc on peut présumer qu'il s'agit d'une Deerstalker, comme celle qui est représentée ici, et qu'il a très tôt été par l'illustrateur des histoires de Holmes, Sidney Paget, qui est en fait le véritable inventeur de cette casquette plutôt que Conan Doyle. Toujours est-il que cette silhouette a été choisie pour être mise sur cette plaque devant le musée, parce que pour un esprit, pour tout le monde, elle symbolise directement Sherlock Holmes. Le point de départ, c'est en 1951, une exposition à l'occasion d'une année qui était fêtée en Grande-Bretagne et qui s'appelait le Festival of Britain, une exposition qui était consacrée à Sherlock Holmes dans Baker Street, donc qui est antérieure en fait au musée de Luçon, et pour laquelle Edwin Conan Doyle avait mis à disposition les archives familiales, de nombreux objets, mais aussi la fille de Sidney Paget, l'illustrateur, et d'autres collectionneurs ont mis à disposition pour cette grande exposition de 1951 toutes sortes d'objets qui ont fait qu'elle a été la grande exposition consacrée à Sherlock Holmes et à Conan Doyle. Et le musée, en partie, reprend la thématique de cette exposition. Donc la première reconstitution du salon de Sherlock Holmes avait été faite à Londres en 1951. La deuxième a été refaite par Adrian Conan Doyle ici. Il y en a encore une troisième qui est au pub Sherlock Holmes à Londres et qui reprend aussi en partie des éléments de l'exposition de 1951. Donc on a plusieurs et vous en avez encore une quatrième à Meiringen qui est la plus récente puisqu'elle date des années 90. Et puis vous en avez même une maintenant, c'est vrai, il y en a encore une autre dans Baker Street, mais qui est un petit peu boudée par les spécialistes parce qu'elle est juste là pour donner un point d'accrochage aux touristes. Elle n'est pas, si vous voulez, gérée avec le même amour que les autres par des Holmésiens, je dirais, chevronnés. Alors l'exposition de 1951 n'existe plus, mais elle a, comme vous voyez, des successeurs et des descendants dans bien des endroits. Alors celle de Luçon est une de celles qu'on préfère parce qu'elle est justement celle qui a le plus d'atmosphère, vu qu'elle contient des objets qui ont appartenu à l'écrivain et à sa famille.
Voilà, on rentre dans cette reconstitution qui est cachée par des rideaux rouges, et là, atmosphère, oui, avec des lumières, comme si on rentrait un petit peu dans un soir dans l'atelier. Alors, décrivez-moi un petit peu, Vincent Delès, et ce qu'il y a dans ce qu'on voit.
On voit énormément de choses. Par quoi commencer? Alors, on a la chance d'avoir un commentaire ici qui a été fait à l'époque où il est parti à la retraite par un ancien commandant de la police cantonale vaudoise, René Hubert, qui lui accompagne, si vous voulez, avec un éclairage qui change de point de vue et décrit les objets à mesure qu'on fait le tour de ce salon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce salon? Pour les spécialistes, ce serait peut-être le buste de Sherlock Holmes qui est posé devant la fenêtre, parce que c'est une des toutes premières représentations qui ont été faites du détective. C'est un buste qui a été fait pour Conan Doyle par un de ses amis à l'époque où Sherlock Holmes connaissait un boom dans le Strand Magazine, où il y avait ses premiers succès. C'est le haut de forme qui est accroché ici au porte-manteau parce que c'est le haut de forme de Sir Arthur Conan Doyle. Donc on a plusieurs objets comme ça qui viennent directement de Conan Doyle. Et puis, pour le reste, il y a aussi un côté décor de théâtre, bien sûr, qui ne se voit pas parce que c'est très très bien fait, puisque cette pièce, les tapisseries ont été reconstituées, la forme de la pièce, de la cheminée, ont été reconstituées fort bien par des spécialistes, comme je vous le disais, à partir de 1951. On a récupéré certains éléments de l'exposition de 1951. Et puis par Madame Julia de Bière à Luçon, qui était une Anglaise, qui à l'époque résidait au château et avait des ateliers, et qui est un signe du destin, c'est un heureux hasard, est une décoratrice professionnelle, une spécialiste des meubles anciens, et qui a pu, quand le musée a déménagé du château à la maison ici, donner à la fois au salon et au musée, à l'exposition, son atmosphère typiquement britannique, typiquement 19e siècle. Alors dans ce salon, parmi les objets intéressants, on relève le fusil à air comprimé du colonel Moran que Holmes a conservé comme trophée de guerre sur la table du salon, au milieu des reliefs du petit-déjeuner, parce que c'est une pièce où Holmes et Watson vivent, mais où ils ont rassemblé justement divers souvenirs, une gravure qui représente les chutes du Reichenbach, près d'un râtelier où se trouvent justement divers ustensiles, cannes, piolets, qui ont servi à leur expédition en montagne. Vous avez aussi des choses plus, plus exotiques, qui sont des souvenirs ramenés par Watson de sa campagne en Afghanistan, puisqu'il a fait partie d'une expédition entre 1878 et 1880, qui a fait une campagne en Afghanistan, l'armée britannique. Et Watson est revenu blessé, en fait, sa carrière militaire a été très vite interrompue, il est revenu blessé. Et c'est ce qui lui a permis de rencontrer Holmes à Londres quand il s'est agi de trouver un colocataire pour un appartement.
Ça, c'est dans Une étude en rouge, la première grande histoire qui introduit les deux personnages, d'ailleurs.
Voilà, Une étude en rouge qui a surtout de l'intérêt parce qu'elle introduit les personnages, elle raconte comment ils se sont rencontrés, elle décrit justement leur emménagement à Baker Street. Elle a un côté un peu didactique, cette histoire aussi, par rapport à Holmes, parce qu'il s'agit de présenter son activité au lecteur. Donc on explique bien en quoi consiste son raisonnement, qui est en fait le raisonnement qui a été inspiré à Conan Doyle par son professeur de chirurgie, Joseph Bell. Et puis Conan Doyle s'inspire aussi de ses prédécesseurs dans le domaine du roman policier, notamment le roman policier français avec Gaboriau et son détective Lecoq, qui était un des précurseurs de la police scientifique et dont Holmes s'inspire.
L'une des choses qui avait reconstitué aussi dans ce cabinet chambre bureau de Holmes et Watson, c'est le désordre. C'est certains désordres qui fait partie de leur vie et surtout qu'il ne faut pas toucher.
Alors, ça, ce n'est pas difficile à reconstituer le désordre parce qu'il y a tellement d'objets qui sont décrits dans cette pièce dont on sait qu'elle ne peut pas dépasser une certaine dimension, que fatalement, si vous mettez tous ces objets dans une pièce, vous obtenez automatiquement le fameux désordre dont se plaignait Watson, parce qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire dans un salon, justement comme le fusil à vent dont on parlait tout à l'heure, et puis différentes reliques des enquêtes de Holmes. Mais Watson se plaint surtout du papier, c'est-à-dire du courrier, des journaux, de la paperasse que Holmes accumule dans son salon. Et quand il s'agit de ranger cette paperasse, Holmes réussit, avec son habileté coutumière, à s'en tirer parce qu'en rangeant ses archives, il attire l'attention de Watson sur l'une ou l'autre affaire que Watson ne connaît peut-être pas parce qu'elle date de l'époque où il ne se connaissait pas encore. Et finalement, Watson obtient de publier le compte-rendu de cette affaire et en échange, il accorde à Holmes le droit de ne pas encore ranger sa paperasse pour l'instant.
R comme reconstitution.
Vincent Delay, on est dans la reconstitution du salon de Sherlock Holmes. À l'intérieur, entre les objets, on a l'impression un petit peu d'y être, pour peu qu'on mette un chapeau sur la tête ou qu'on touche certains de ces objets-là. On pourrait fermer un peu les yeux sans voir la vitre qui permet aux visiteurs de voir ça et simplement d'y être. Pourquoi vous êtes intéressé à Sherlock Holmes? Pourquoi vous êtes passionné par ça?
C'est le lieu de poser la question, parce que c'est justement quand j'ai visité ce musée en étant petit que ça m'a donné envie d'en savoir plus, de lire les histoires et puis d'y revenir en m'y intéressant toujours plus.
En visitant le château?
En visitant le musée Sherlock Holmes tel qu'il était exposé au château à quelques centaines de mètres d'ici. Et vous remarquerez qu'en déménageant, en fait, on n'a absolument rien changé au salon de Sherlock Holmes. C'était d'ailleurs le but. Et qu'on retrouve exactement la même pièce ici.
Qu'est-ce qui vous a donné vraiment le virus? C'est en lisant? Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces histoires?
C'était l'atmosphère, justement, le contraste qu'il y a entre ce côté immuable et rassurant de l'endroit où Holmes et Watson vivent, et puis le caractère inquiétant des mystères auxquels ils sont confrontés.
Et qu'est-ce que vous retrouvez là, quand vous rentrez comme ça dans cette pièce?
Je retrouve alors, ça c'est plus tard en se spécialisant, qu'on sait que le gazogène, qui est ce siphon un peu particulier avec une forme bombée, deux boules superposées, le gazogène qui est un objet emblématique de l'époque, surtout pour les anglo-saxons, puisque c'était un objet courant dans les clubs de gentlemen ou chez les gens un petit peu aisés qui pouvaient fabriquer ainsi leur eau gazeuse. Et puis, au besoin, diluer le whisky avec, coutume barbare qui avait cours à l'époque. Et puis, le tantalus, qui, toujours dans le même registre, contient, lui, non pas l'eau, mais la liqueur, justement, et qui est un meuble qui permet de mettre sous clé les bouteilles, de manière à ce que les indésirables ne se servent pas. C'était notamment chez les gens qui avaient du personnel de maison, des domestiques, et à l'époque, il y avait de nombreux ménages qui en avaient. Alors on mettait sous clé les liqueurs parce qu'on avait peur que la bonne en passant se serve une rasade de whisky.
Il y a beaucoup d'objets aussi exotiques dans ce salon.
Oui, ça symbolise l'Empire britannique. En fait, les histoires de Holmes ont aussi eu un grand succès parce qu'elles ont été publiées en Angleterre, à une époque où l'Angleterre était la première puissance au monde. Et la reine Victoria régnait sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Ce qui fait que les Anglais avaient une influence aussi culturelle dans le monde entier, qu'ils ont conservé d'ailleurs à travers le Commonwealth, parce que c'était, si vous voulez, un colonisateur qui était plus ou moins bien apprécié, mais qui a laissé des traces aussi dans différents pays. Alors ça va des Indes à l'Afghanistan, où les Anglais se sont illustrés au cours de la campagne à laquelle Watson a participé. Donc c'est ce qu'on retrouve ici dans le salon de Holmes. Les Indes sont présentes dans une enquête de Holmes qui s'appelle « Le signe des quatre ». Et puis, vous avez une sorte de pendule japonaise ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça nous donne l'occasion de dire que les Japonais se sont ouverts au monde à l'époque, justement, de Sherlock Holmes. Et c'est pour ça que Sherlock Holmes a autant de succès au Japon. Et qu'après l'Angleterre et les États-Unis, c'est au Japon qu'on trouve le plus de sociétés consacrées à Sherlock Holmes, le plus de personnes qui sont membres de sociétés holmésiennes.
Et qui s'habille en Sherlock Holmes.
Alors ça, c'est presque un petit peu un mythe, parce que les Holmésiens s'habillent en Sherlock Holmes qu'à l'occasion, finalement, du pèlerinage annuel, enfin non pas annuel, mais du pèlerinage régulier que fait la société Sherlock Holmes de Londres en Suisse, justement sur les traces du voyage de Holmes en Suisse. Alors ça, c'est une habitude, je dirais, très ancrée dans le monde anglo-saxon et dans la littérature. On sait que Byron est venu en Suisse, on sait que finalement les premiers touristes ont été des Anglais et même des écrivains anglais. Et puis Conan Doyle et Holmes ont perpétué cette tradition, puisque Conan Doyle est venu en Suisse se promener dans les Alpes. Il y a envoyé son héros, ce qui fait qu'aujourd'hui encore régulièrement, des Anglais viennent en Suisse et ils revêtent le costume de l'époque des aventures de Sherlock Holmes. Et c'était depuis 1968 à l'instigation d'Albert Kunz, qui était responsable de l'Office du tourisme et qui avait convaincu les membres de la société Sherlock Holmes de Londres, d'abord réticents, à revêtir un costume d'époque pour faire plus sensation quand ils passeraient à travers les villes et villages suisses. Et puis finalement, les Anglais y ont tellement pris goût qu'ils sont revenus de nombreuses fois depuis.
Elle comme littérature policière.
Moi, je me suis beaucoup intéressé au personnage du détective amateur tout au long du 19e siècle. L'archétype a été créé par Edgar Poe. C'est lui qui a posé un petit peu l'archétype du détective amateur, détective consultant comme ça, qui n'a rien à faire de ses journées et qui enquête un peu à la place de la police. C'est toujours bien mieux que les policiers officiels. Il a été repris par Émile Gaboriau à Paris, en France, un petit peu avant Conan Doyle. Et donc Conan Doyle est un petit peu le troisième grand écrivain à avoir repris à son compte l'archétype du détective consultant, du détective amateur. Et en créant Sherlock Holmes, il a créé la troisième grande figure de détective amateur. Après Dupin, après Lecoq, le personnage d'Émile Gaboriau, le Sherlock Holmes est un peu comme ça dans l'ordre chronologique, le troisième qui arrive sur la liste. Donc le détective, après Sherlock Holmes, va avoir une importance très très grande. Il va être repris par une flopée d'écrivains qui vont lui redonner vie. Voilà. Mais le mot détective est quelque chose qui a une grande importance pour moi, qui a un petit peu été galvaudé par l'expression consacrée par les Américains de détective privé, qui lui est plus du côté polar, roman noir américain. Mais le détective seul, le mot détective, le détective amateur, est plus référentiel par rapport à la première époque de la littérature policière, c'est-à-dire Edgar Poe, Gaboriau et Conan Doyle.
Holmes ! Ah, vous êtes levé.
Oh, excusez-moi, vous étiez en train de travailler. Je vous ai interrompu dans l'étude de ce chapeau.
Non, non, non. Non, cette affaire de chapeau n'a rien d'extraordinaire. Mais j'ai remarqué certains détails qui ne sont pas dépourvus d'intérêt. Et qui sont même instructifs.
Je suppose que l'état pitoyable de ce couvre-chef est la preuve qu'il a été mêlé à quelque assassinat. Et que c'est grâce à lui que vous arriverez à résoudre quelques mystères et à punir l'auteur de quelques crimes.
Non, 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 non. Mais il s'agit seulement d'un de ces petits incidents insignifiants qui se produisent quand il y a 4 millions d'êtres humains entassés les uns contre les autres sur une surface de quelques kilomètres carrés.
Alors quel détail vous a livré ce vieux melon cabossé?
Vous connaissez mes méthodes. Mettez-les en pratique et voyons ce que vous pouvez me dire sur la personnalité de l'homme qui portait un tel couvre-chef. Il était accompagné d'une oie quand il est arrivé. On avait écrit pour Madame Henri Baker sur une petite carte attachée à la patte gauche du volatile.
Ah. En fait, à part les initiales qui sont à l'intérieur, HB, pouvant signifier Henri Baker. Hein? Je ne vois rien d'autre.
Vous vous trompez, Watson. Vous voyez des tas de choses, mais vous ne raisonnez pas en vous servant de ce que vous voyez. Vous êtes trop timide pour tirer des conclusions.
Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous voyez, quelles sont les conclusions que vous en tirez.
L'homme en question est un intellectuel, c'est évident. C'est aussi quelqu'un qui a connu une certaine richesse pendant ces 3 dernières années, qui traverse une période difficile. Il était prévoyant, mais aujourd'hui moins qu'avant. Peut-être dû à une dégénérescence morale, qui, si on l'ajoute à ses revers de fortune, semble indiquer une emprise diabolique. Probablement la boisson. Cela peut justifier aussi le fait que sa femme ait cessé de l'aimer.
Mon cher Holmes...
Notre homme n'a cependant pas perdu tout respect de soi-même. Aujourd'hui, il mène une existence sédentaire. Il a une forme physique qui laisse à désirer. Il est entre 2 âges, ses cheveux grisonnent, il les a fait couper il y a seulement quelques jours. Et d'habitude, il les discipline avec du cosmétique. Il est aussi tout à fait improbable qu'il y ait le gaz là où il habite.
J'ai compris, vous êtes en train de vous moquer de moi.
Pas le moins du monde.
Je sais que je suis inintelligent et stupide, mais quand même.
Par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire que ce monsieur est un intellectuel?
C'est une question de capacité cubique. L'homme qui a une tête aussi grosse doit avoir un peu de cervelle dedans.
Bon. Et ces revers de fortune, où les voyez-vous, dites?
Voyez-vous, ces bords plats et roulés à l'extrémité, ça se faisait il y a 3 ans. C'est un chapeau de la meilleure qualité, Watson. Regardez ce ruban de soie côtelée, cette excellente doublure. Si ce monsieur a pu s'offrir un tel chapeau il y a 3 ans, et s'il n'a pas pu s'en acheter un autre depuis, c'est qu'il a certainement subi des revers de fortune.
Et ce don de prévoyance? Et cette dégénérescence morale?
Voici le don de prévoyance. Ces trous pour fixer une jugulaire ne sont jamais faits à l'avance. Si cet homme les a fait faire, cela signifie qu'il est doué d'une certaine prévoyance, étant donné qu'il a voulu éviter que le vent ne lui enlève son chapeau. Mais comme vous le voyez, il a cassé l'élastique et il ne l'a pas fait remplacer. Donc son caractère s'affaiblit. Quant aux autres points dont nous parlions, c'est-à-dire son âge, ses cheveux grisonnants, sa coupe de cheveux récente et le fait qu'il se serve de cosmétiques, je les ai découverts en inspectant la partie inférieure de la doublure. Vous voyez cette moisissure? Cela veut dire que notre homme transpire et qu'il n'est pas au mieux de sa forme.
Oui, mais sa femme, vous avez dit qu'elle avait cessé de l'aimer.
Ce chapeau n'a pas été brossé depuis 2 semaines. Quand je vois arriver un homme transportant une semaine de poussière sur son chapeau, alors je me dis que si sa femme le laisse sortir dans cet état, il y a des chances pour que ce monsieur ait eu la malchance de perdre son affection.
Il est peut-être célibataire.
Peut-être, mais il a acheté une oie pour faire la paix avec sa femme. Rappelez-vous la carte attachée à la patte gauche.
Oui... De toute façon, vous avez toujours réponse à tout.
Attendez, là, je vous tiens.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas le gaz dans la maison où il vit?
Une tache de suif, ou disons 2, peuvent se trouver là par hasard, mais il y en a au moins 5, ce n'est plus du hasard. S'il y avait le gaz chez lui, il ne se serait jamais taché avec du suif. Satisfait, Watson?
Par rapport à ça, je crois que Conan Doyle n'a rien inventé. Edgar Poe a posé les bases du roman policier, en tout cas de du conte policier, très vite, dès 1842-44, quand il a écrit « Double assassin dans la rue Morgue »,« La lettre volée » et « Le meurtre de Marie Roger ». Il a déjà posé l'archétype du roman policier. Donc, Conan Doyle, par rapport à ça, ne fait que reprendre. Son personnage de Sherlock Holmes fait lui-même reprend une façon de mener l'enquête qui est propre au Chevalier Dupin. Donc je crois que son originalité à lui, c'est d'avoir peut-être prolongé ça sur un cycle beaucoup plus long et puis ancrer ses romans dans une réalité très sociologiquement actuelle pour son époque. Edgar Poe avait écrit des contes qui étaient assez obscurs avec un personnage Dupin qui était lui encore plus désincarné que Sherlock Holmes pouvait l'être. Le propre de Conan Doyle, c'est justement d'avoir fait des nouvelles policières qui avaient un ancrage réellement sociologique dans l'époque victorienne où tout le monde pouvait s'y retrouver. Et justement, il a inventé un personnage des détectives qui était extrêmement rassurant, je pense, pour les lecteurs victoriens de l'époque, qui était quelqu'un qui, quoi qu'il puisse arriver dans la société, était là pour débrouiller, faire comprendre et mettre le méchant personnage derrière les barreaux à la fin de l'histoire.
Oui, en fait, Conan Doyle s'inscrit dans le courant de la pensée scientifique de son époque. C'est son professeur de chirurgie, Joseph Bell, qui l'avait inspiré pour créer le personnage de Holmes. Conan Doyle lui-même était médecin, donc c'était un homme de science et un homme, je dirais, positiviste du 19e siècle. Même si Conan Doyle avait des aspirations également religieuses. Donc, il a fait passer dans le personnage de Sherlock Holmes cet esprit scientifique positiviste du 19e siècle, et puis il l'a appliqué à l'enquête criminelle. Donc, il a réussi à faire la synthèse de deux mondes qui sont apparemment antinomiques, le monde scientifique, rationnel, terre-à-terre, le monde du raisonnement cartésien, et puis le monde mystérieux dans lequel Conan Doyle, qui est né à Édimbourg, a baigné depuis son enfance, le monde, je dirais, le côté irrationnel que l'Angleterre traditionnelle réserve avec des épopées comme les Chevaliers de la Table Ronde ou bien les légendes qui existent avec les fées, des choses auxquelles Conan Doyle était très attaché et qui l'intéressait aussi beaucoup. Donc il a fait un peu la synthèse du mystère et de la raison avec les histoires de Sherlock Holmes qui débutent toujours par un mystère et que la raison vient toujours éclairer. Alors dans le monde réel, il y a des personnes qui ont suivi exactement la même voie que le personnage fictif de Holmes ou bien que son écrivain, que le créateur Conan Doyle. Et puis, ces personnes ont publié leurs travaux à peu près en même temps que les histoires de Holmes ont été publiées. On cite toujours Hans Gross, qui était un juge d'instruction autrichien, qui a écrit le manuel du juge d'instruction. Et dans ce manuel du juge d'instruction, qui date des années 1890, en même temps que les histoires de Holmes paraissent dans le Strand Magazine, on a la recommandation de lire les histoires de Conan Doyle parce qu'elles fournissent un enseignement intéressant. Et immédiatement après, vous avez le professeur Rice qui va fonder à Lausanne, l'école des sciences criminelles, qui est toujours active aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi, à Lyon, le professeur Lacassagne, qui est médecin légiste, mais qui va donner l'impulsion à la naissance de la police scientifique à travers de son successeur, notamment Edmond Locard, qui est un des grands pionniers de la police scientifique, qui connaissait Rice. Et parmi les élèves de Lacassagne, vous aviez aussi un nommé Jean-Henri Bercher, qui a écrit un mémoire sur l'influence de l'œuvre de Conan Doyle par rapport à la médecine légale et à ce qu'allait devenir la police scientifique. Donc on a une filiation directe, et ce qui est drôle, c'est que ces scientifiques, qui sont des hommes de science sérieux, mais qui ont en général un côté humaniste, se réfèrent volontiers et de manière tout à fait ouverte à Conan Doyle, qui est un écrivain, et à une œuvre de fiction pour exposer les origines et les fondements de leur démarche.
Tu croyais que ce serait facile, n'est-ce pas? Avoue-le! Tu n'es pas le premier de ta famille à avoir cru cela. Ni le premier à mourir pour l'avoir cru. Souviens-toi de la légende. Sir Hugo est mort ici. Oui, il est mort égorgé par la faute d'une femme. Et Sir Charles, ton cher oncle, lui aussi, il est mort ici. Mort parce qu'il me désirait comme tu me désires. Il est mort parce qu'il me voulait suffisamment pour m'attirer ici, seul, la nuit. Sans penser au chien des Baskerville. Ce cri, quand il est mort, je l'ai entendu. J'étais là. Et ce soir, c'est toi qui es là, tout seul, la nuit. Tu ne comprends pas ce que je te dis? Laisse-moi t'expliquer. Je suis une fille Baskerville. Je descends de l'horrible sœur Hugo et de ceux qui sont morts pauvres pendant que vos ancêtres faisaient trembler tout le pays. Mon père et moi, nous avons prié pour que vienne cette heure. Et elle est enfin arrivée. Et la tienne aussi. La malédiction du chien est sur toi.
Il n'ira pas loin. Occupez-vous de Sir Henry. Ce n'est rien. Ce n'est rien, Sir Henry. Le chien est mort. Il faut que vous le voyez.
Non.
Il vaut mieux que vous le voyez. Il n'est rien à craindre. Un passage secret conduit de la mine à l'abbaye. Je l'ai découvert quand Stapleton a tenté de me tuer dans la mine. Il se servait d'un masque pour rendre le chien plus terrifiant. Il l'affamait pendant des semaines, le gardait dans la mine jusqu'à ce que vienne le moment, puis lui faisait flairer un objet appartenant à la victime. Cette chaussure vous appartenait bien, Sir Henry.
Mais il faut ramener Sir Henry au manoir de Baskerville, Holmes. Avez-vous votre cape? Voulez-vous la lui prêter? Réclamer sa dernière victime.
Oui. Jamais plus vous n'entendrez parler du chien des Baskerville.
Fantastique. Fantastique.
Le fantastique chez Sherlock Holmes, ou en tout cas chez Conan Doyle, est tout à fait fascinant, parce qu'évidemment, au 19e siècle, à Londres, en Europe, on a une découverte totale qui est la découverte de Mesmer, des tables qui tournent, de la photographie qui va s'approcher, et puis Sherlock Holmes va absolument pas être dupe, contrairement à son créateur, qui lui va très vite se faire duper, parce qu'il faut se souvenir que Sherlock Holmes fut avec Kipling un individu qui était tout à fait en avance sur son temps. Il faisait du ski, il roulait en automobile, il a eu des accidents de voiture, il a eu des amendes parce qu'il roulait trop vite, donc tout l'intéressait. Mais en revanche, on a l'impression que son personnage, il le bride. Et il le bride pour de vrai parce qu'il veut en faire un cartésien. Pourquoi Conan Doyle n'a jamais été capable de faire de Sherlock Holmes, et s'il faisait pas de Sherlock Holmes, mais du Dr. Watson, un personnage qui était capable de ne pas résoudre une fois une histoire? Or, toutes les histoires, a priori, ont une solution. Et c'est fort étrange. Donc, Sherlock Holmes, c'est vraiment une marionnette. À mon minuscule et modeste sens, c'est une marionnette. C'est un jeune homme, c'est un adolescent, c'est un vieux garçon. Et jamais, il va se frotter au diable, au vampire, dans une société qui est quand même très compliquée. Il y a l'Easten, il y a la Tamise, il y a ses voyages, il vient d'une famille française, le chien des Baskerville. On a une solution qui est très pratique. Donc, nous n'avons jamais l'instant où Sherlock Holmes accepte de croire que l'inconnu le dépasse. Et d'ailleurs, il dit toujours à Watson, « Je ne devine pas, je déduis. »
C'est horrible.
Moi, ce que j'ai toujours un petit peu reproché à Conan Doyle dans son corpus holmésien, c'est que c'est toujours des histoires froidement rationalistes. Et moi, j'aime bien, c'est quand les histoires policières dérapent un petit peu sur quelque chose qui n'est plus du tout logique, qui n'est plus du tout rationnel. C'est pour ça que mes propres romans, c'est des histoires policières fantastiques. Et c'est un peu comme ça que j'aurais aimé que certaines histoires de Sherlock Holmes dérapent. Alors, Le Chien des Baskerville, c'est la seule où, à un moment, on a l'impression que ça va vraiment déraper. On a l'impression que Le Chien des Baskerville, enfin, le personnage de ce fameux chien légendaire, est quelque chose d'effectivement fantomatique. En réalité, c'est pas un fantôme, c'est un véritable chien qui a été dressé pour tuer. La chute est assez décevante par rapport à ça, enfin, pour moi. J'aurais aimé, justement, qu'une de ces nouvelles dérape vraiment sur le fantastique assumé. Le seul roman où, à la fois... À la fin, il y a toujours une explication qui n'est pas tout à fait rationnelle. C'est La Chambre Ardente, son plus beau roman, où effectivement, il y a une double explication. Il y a une explication rationaliste qui est là pour satisfaire son lectorat qui a besoin justement de vérité, de rationnel, de scientifique. Et puis, à la fin, il y a une dernière petite phrase qui fait tout rebondir. Il fait penser qu'en fait, c'est pas si rationnel que ça. Et que le fantastique rentre peut-être par une petite porte à la fin du roman, quoi. Le fantastique rentre peut-être par une petite porte à la fin du roman.
Vous écoutez Espace 2, Sonar, autour du mythe de Sherlock Holmes.
A, comme artifice et pastiche.
L'esprit se matérialise, murmura le docteur. Regardez, il grandit encore. En effet, la colonne lumineuse continuait de s'étendre. Elle finit de glisser jusqu'au milieu du cercle, vacillant et pulsant comme un cœur qui bat. Puis, peu à peu, elle prit la forme d'un homme d'une taille de 6 pieds à peu près, âgé de 40 ans environ, à la silhouette étroite, sèche et nerveuse, les lèvres fines, les yeux gris et pénétrants. La matière étonnamment plastique qui le constituait ne cessait de se solidifier jusqu'à offrir à la vue, avec une frappante précision, les petits carreaux d'un costume de tweed qu'on aurait dit fabriqué dans un tissu de gaze. C'était, sans contestation possible, le même esprit que celui de la photo. « Pouvez-vous parler ?» demanda le docteur.
« Pour sûr, » répondit l'esprit d'une voix forte et grave. « D'habitude, c'est moi qui pose les questions, mais cette fois, je me résous à faire une exception. »«
Vous ne nous avez pas dit comment vous vous appeliez. Serait-ce indiscret de vous le demander ?»«
Mon nom est Holmes. » Sherlock Holmes, madame, messieurs. Il s'inclina plusieurs fois.
Par transparence, j'apercevais à travers son corps ectoplasmique la silhouette des autres invités.
Mais Sherlock Holmes n'a jamais existé, rétorqua Clive Randall avec beaucoup d'à-propos. Il est de notoriété publique que ce personnage est la pure invention d'Arthur Conan Doyle. Je ne vois pas comment nous pourrions avoir l'esprit d'un détective imaginaire devant nous. Oh, oh, pourtant je vous promets que c'est le cas.
Doit-on comprendre, demanda James, que Sherlock Holmes a réellement existé? Que ce n'était pas une invention d'écrivain? Mieux, que c'est vous qui avez servi de modèle à Conan Doyle?
Oh là, s'esclaffa l'esprit. J'ai dit que j'étais disposé à répondre à quelques questions, pas à me soumettre au supplice d'un interrogatoire.
Fabrice Bourlon, le fantôme de Baker Street.
Le propre du pastiche holmésien, puisque maintenant c'est devenu un genre à part entière, c'est des auteurs qui décident de reprendre le personnage de Sherlock Holmes et de lui faire vivre une nouvelle aventure. Conan Doyle a eu le coup de génie quand il a écrit ses textes. C'était de distiller dans ses ouvrages ce qu'on appelle les « untold stories », c'est-à-dire des histoires que Sherlock Holmes est censé avoir vécu, des enquêtes qu'il est censé avoir menées, mais que Conan Doyle n'écrira jamais. Donc l'une des plus célèbres, par exemple, c'est l'affaire du rat géant de Sumatra. Il y a eu des dizaines d'auteurs américains, anglais, qui se sont évertués à faire des pastiches en essayant de faire mener à Sherlock Holmes cette fameuse enquête du rat géant de Sumatra. Il y en a qui ont fait des choses assez chouettes d'ailleurs, d'autres qui ont été beaucoup moins intéressants. Donc par rapport au genre du pastiche holmésien, qui donc à chaque fois reprend le personnage de Sherlock Holmes et lui fait mener une enquête qu'il aurait pu effectivement mener telle que Conan Doyle les écrivait, moi j'ai pas voulu du tout faire ça. J'ai d'abord créé mes propres enquêteurs, Andrew Singleton et James Trelawney, et en fait la référence à Sherlock Holmes arrive par un biais un petit peu détourné, puisque on s'aperçoit qu'à l'adresse du 221 Baker Street, des apparitions étranges, des événements surnaturels se mettent à se produire, et que peut-être un fantôme hanterait le lieu. Voilà. Au départ, on ne sait pas de qui il s'agit, de quel fantôme il peut bien s'agir, mais voilà, c'est pas un pastiche à proprement parler. Donc, je me suis pas mis non plus dans la peau de l'auteur qui dit « Je vais faire un ouvrage à la Conan Doyle, je vais reprendre le personnage de Sherlock Holmes et je vais le faire revivre une nouvelle enquête. » C'était pas tellement mon propos. Ceci étant dit, une fois que le bouquin était terminé, je me suis retrouvé un petit peu avec les mêmes problèmes que ceux qui écrivent des pastiches, c'est-à-dire que le nombre de gens qui ont, comment dire, un avis critique sur le personnage de Sherlock Holmes est extrêmement important, et là, je me suis très vite rendu compte que les universitaires, les affiliés des sociétés Sherlock Holmes de France, d'Angleterre, des États-Unis allaient très vite avoir un avis sur la question et que j'allais très vite me rendre compte est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse. En l'occurrence, c'est passé assez bien, donc ça a été, mais ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Tout ça pour dire que quand on met les pieds dans l'univers de Sherlock Holmes, il y a des règles à respecter qui sont effectivement une sorte de biographie fictive qui colle à Sherlock Holmes. Il y a des gens qui ont passé leur vie, il y a un anglais comme ça dont je me souviens plus nom, qui a passé son existence à repérer comme ça tous les événements dans le texte de Conan Doyle, tous les événements qui sont censés avoir été vécus par Sherlock Holmes, et qui a dressé comme ça une biographie fictive du personnage pratiquement au jour près.
Ouais, obligation de passer par le canon et les règles de base. Alors justement, vous dites Sherlock Holmes est un personnage puissant, fort, Et c'est peut-être parce qu'il était fort qu'il a pu réapparaître. Sous-entendu, il y a cette thèse que l'imaginaire est tellement puissant que des personnages comme ça qui ont une vie imaginaire et qui est portée par les lecteurs aussi, ou l'attrait des lecteurs, peuvent ressurgir ou peuvent avoir une vie parallèle.
C'est une thèse qui a été soutenue par pas mal d'occultistes à travers les siècles, pas mal de chercheurs en sciences hermétiques, comme on dit, l'idée que, à partir du moment où une pensée existe, elle se perpétue dans un au-delà astral. En quelque sorte, à partir du moment où on émet une idée, où on émet une hypothèse, cette idée se met à prendre vie quelque part dans un au-delà qu'on ne connaît pas. Conan Doyle lui-même, qui à côté de ses histoires de Sherlock Holmes, a écrit pas mal de contes fantastiques, a repris cette thèse dans une nouvelle qui s'appelle « Jouer avec le feu », qui est extrêmement peu connu, qui doit être édité en France dans la collection des intégrales de Conan Doyle, dans la collection bouquins. Et donc, dans « Jouer avec le feu », il met en scène une séance spirit qui se passe dans le studio d'un peintre. Or, juste avant que la séance ne commence, le peintre qui participe à la réunion avait passé la journée à peindre sur un tableau une licorne. Donc on émet l'hypothèse que la licorne auquel le peintre a pensé pendant toute la journée, puisqu'il essayait de lui donner une image sur cette toile, cette licorne a tellement été présente dans cette pièce qu'elle continue encore à exister dans un au-delà astral. Et à travers la réunion spirit qui est organisée, un des spirites en question va tenter de faire appel, de communiquer avec cette licorne, et il va tellement bien y réussir que la licorne va apparaître dans la pièce, enfin la représentation ectoplasmique de cette licorne va apparaître dans la pièce et va manquer d'embrocher chacun des participants, et on va réussir à interrompre cette séance de façon un peu catastrophique, et chacun aura vraiment l'impression d'être passé tout près de la mort. Donc Conan Doyle, au début des années 1903-1904, a donc écrit une nouvelle où effectivement il utilisait cette thèse comme quoi les idées, les fictions, les personnages prennent vie dans un au-delà. À partir du moment où Conan Doyle lui-même avait émis cette hypothèse, pour moi ça me paraissait légitime de la reprendre et de l'appliquer à son personnage maître qu'il avait inventé, c'est-à-dire Sherlock Holmes, qu'il y a eu une telle puissance du vivant de Conan Doyle, et encore aujourd'hui, que des millions de personnes à travers la planète ont cru mendicus en l'existence véridique de Sherlock Holmes. Conan Doyle, de son vivant, recevait énormément de courriers, à la fois chez lui, à la fois chez son éditeur, de gens qui demandaient, par son intermédiaire, de rentrer en contact avec M. Sherlock Holmes pour lui confier une affaire. Il recevait des lettres d'Amérique du Sud, de Patagonie, du Japon, de Chine, d'Europe, de n'importe où, lui demandant de transmettre cette enquête ou cette demande d'enquête auprès de Sherlock Holmes. Donc, voilà un personnage de fiction qui a eu une puissance absolument incroyable, et je pense que dans toute la littérature, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, aucun personnage de fiction a eu une telle identité, une telle force de persuasion auprès du public. Encore aujourd'hui, il y a un sondage qui a été publié en Angleterre, comme quoi plus de 60% des Anglais croient mendicus que Sherlock Holmes a réellement existé. Alors qu'ils sont moins en pourcentage à penser que Churchill lui-même a existé. Donc par rapport à un personnage vivant, Sherlock Holmes, lui, qui a été simplement un personnage de fiction, emporte l'adhésion, et des gens croient encore aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a existé.
Mais Sherlock Holmes n'a jamais existé. Il est de notoriété publique que ce personnage est la pure invention d'Arthur Conan Doyle. Je ne vois pas comment nous pourrions avoir l'esprit d'un détective imaginaire devant nous. Oh oh, pourtant je vous promets que c'est le cas.
Espace 2.
Sonar.
Études holmésiennes et pataphysique.
En France, l'holmésologie, les premiers textes holmésologiques ont été publiés dans la revue du collège par deux des plus éminents pataphysiciens, Jean Ferry et Paul Gaillot. Et sans doute, ce qui les intéressait dans le personnage de Sherlock Holmes, c'est sa dimension mythologique. Il n'y a pas d'autres personnages de la littérature policière, et on peut même étendre ça d'une manière plus large à la littérature tout entière, qui ait généré une mythologie aussi importante, une glose, je dirais même une gnose, et toute une série de réécritures dans lesquelles le personnage rencontre à la fois des personnages de fiction, mais aussi des personnages historiques. C'est vraiment, il y a une spécificité holmésienne tout à fait remarquable. Il y a une quarantaine d'années, était publié en France, traduit de l'anglais, un ouvrage qui s'appelait « Moi, Sherlock Holmes » de M. Baring Gould. Et cet ouvrage se présentait de la manière suivante. À la première page, l'auteur disait, bien entendu, « Tous les personnages dont je te parle dans ce livre sont des personnages qui ont réellement existé. L'auteur serait cependant ravi de rencontrer ceux qui ne prétendent n'être qu'imaginaires. » Je crois que c'est une belle définition pataphysique.
La science des solutions imaginaires, justement.
Oui, tout à fait. Dans les derniers numéros de la revue du collège, on s'intéresse beaucoup aux personnages de fiction et au rapport avec la réalité. Donc là, avec Sherlock Holmes, on est gâté sur le plan pataphysique.
Stanley Holmes, d'Angleterre, le détective, tendit un bras très long, prit le gazogène, et après avoir mis trois grosses pilules dans un verre, le remplit d'un liquide ambré. Je regardais avec compassion, car je savais qu'il souffrait d'une rare affection héréditaire, des gaz sur les gènes, dont les symptômes sont des accès de dépression, des impulsions irrépressibles de s'entraîner au revolver en chambre, et une étrange persuasion que le violon rend un meilleur son quand il est posé sur les genoux. Heureusement, un moine nommé Mendel avait découvert le mal, et Holmes était maintenant soumis à un traitement efficace. Mon ami avala le liquide d'une traite, fronça les sourcils en voyant les trois pilules rester au fond du verre, et, avec une merveilleuse dextérité, les lança une à une dans trois des impacts de balles qui dessinaient un VR patriotique comme Victoria Regina au-dessus de la cheminée. Ce qu'il nous faut en réalité, c'est un problème difficile. Quelque chose pour l'intellect, pas des médicaments. Sun Wat, me dit-il avec amertume. Vous comprenez au moins ce qu'est une maladie héréditaire. Vous êtes sick, je crois. J'approuvai de la tête en caressant mes rouflaquettes d'un noir de jet. Le dernier coup d'archer de Miss Marple ou une aventure de Stanley Holmes d'Arthur Porges dans Jacques Baudou et Paul Gaillot, Mémorial Sherlock Holmes.
J'aimerais bien qu'on parle ensemble, Paul Gaillot, des origines un peu des études holmésiennes en France, puisque avec Jacques Baudou, vous êtes un peu à l'origine de celle-là.
C'était en liaison avec ce qu'on appelait l'Oulipopo. Pas l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature policière potentielle où il y avait Jacques Baudou, Michel Lebrun et d'autres, François Rivière et d'autres personnes, et François qui s'occupait un peu d'appliquer à la littérature policière les méthodes de l'Oulipo, dégager la potentialité des textes policiers, et qui éditait une revue qui s'appelait Enigmatica, qui dure encore d'ailleurs, qui est un peu arrêtée mais qui va reprendre, et qui a publié à l'époque aussi deux numéros sur Sherlock Holmes. Et donc c'est en liaison avec l'Oulipopo, le collège de pataphysique, que ça a débuté. Puis après c'est sorti de ce cadre un petit peu restreint. Ce qui nous intéressait surtout, c'était pas tellement Sherlock Holmes en tant que tel, mais les études qu'il a suscitées, comme le grand ouvrage qui était devenu disponible à l'époque, c'est-à-dire les Sherlock Holmes annotated de Baring Gould, qui est comparable à ce que Jean Ferry, je ne sais pas si vous connaissez Jean Ferry, un des exégètes de Raymond Roussel, appelé le Talmud à propos de Sherlock Holmes. D'ailleurs, on peut dire que Jean Ferré était aussi à l'initiative du renouveau holmésien, puisqu'il a publié un très beau texte sur Sherlock Holmes aussi. Donc c'était un petit peu confidentiel au départ, et puis depuis, il y a eu une floraison d'études sur Sherlock Holmes de pastiche qui se sont mis à fleurir aussi quand c'est entré dans le domaine public, bien entendu.
Quel était votre intérêt par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en faisiez?
Le fait de considérer comme réel quelque chose d'imaginaire, de le traiter avec la même rigueur qu'un personnage historique qui est réel, la différence étant d'ailleurs faible. Une fois que le personnage historique est mort, il est aussi imaginaire qu'un personnage imaginaire. Comme maintenant, vous savez, c'est Conan Doyle, est devenu un personnage imaginaire lui-même, un petit peu, puisqu'il devient héros de récit au même titre que son personnage.
Oui, en fait, c'était pas très loin de la définition même de la pataphysique.
Science des solutions imaginaires qui accorde aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. C'est un peu compliqué, mais enfin.
Donc c'était aussi un peu un exercice de virtuosité que traiter le canon holmésien.
Oui, mais avec rigueur, pas n'importe comment.
Ça veut dire quoi avec rigueur, dites-moi?
Comme faisait Baring Gould, on n'est pas les seuls à le faire, en étant extrêmement rigoureux quant au texte, au canon, à l'exégèse, pas raconter n'importe quoi. Avec une méthode rigoureuse, traiter de choses imaginaires.
Avec un certain humour, en tout cas, à voir par exemple le recueil du Mémorial Sherlock Holmes.
Oui, bien entendu.
Il y a beaucoup de science, mais beaucoup d'humour aussi.
Bah oui, il faut un petit peu de recul par rapport à son objet, justement, si on n'y croit pas. Enfin, on ne croit pas qu'elle existe réellement, Sherlock Holmes, mais on fait comme si. C'est le propre de la croyance, de toute croyance, d'ailleurs.
Mais c'est une grande différence avec ce que peut-être est devenu ou sont devenues une partie des études holmésiennes.
Je vous avouerai que je ne suis pas très près les dernières études holmésiennes, mais c'est surtout devenu des pastiches. On prolonge les aventures de Holmès, soit en réécrivant les récits apocryphes que Watson cite sans les raconter, soit en inventant carrément des rencontres. Certains sont fort astucieux avec tous les grands personnages de l'époque, comme c'est une époque fort riche, on le fait rencontrer Sigmund Freud, Marx, Lénine, tout ce qu'on veut, hein. Et ça donne naissance à des récits dont certains sont fort intéressants.
Dartmoor. Cette région, située dans le comté du Devon, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, est l'une des plus désolées, mais aussi des plus romantiques de Grande-Bretagne. En son centre, une prison célèbre. Tout autour, une lande marécageuse et brumeuse, d'une beauté assez glauque, aujourd'hui érigée à la dignité de parc national. Conan Doyle y a situé deux des plus célèbres aventures de Sherlock Holmes, Le chien des Baskerville et Flamme d'argent. Au Visitor Center, une plaque inaugurée par le prince Charles en 1993 le rappelle.
Eux comme évadés de Dartmoor.
Cours pratique de holmésologie dans le carnet des crous, édité par les évadés de Dartmoor. Une conception rigoureuse de la recherche holmésologique implique le fait que dans le canon, il n'y a pas de détails et que tout y est important. Mais ces détails, tous importants en droit, ne le sont pas en fait, car ils ne sont pas tous aussi féconds. Qu'est-ce qui va décider de la fécondité d'un détail? L'hypothèse dans laquelle le détail se trouvera pris. Les sciences ordinaires considèrent que plus un détail sera paradoxal, plus le phénomène sera complexe et nécessitera la construction d'hypothèses hardies et novatrices. Or, la holmésologie interprétative indicielle, sur le modèle de la pratique de Sherlock Holmes lui-même, inverse ce principe. Plus un détail sera doxal, plus le phénomène sera complexe. Plus un détail sera paradoxal, plus le phénomène sera simple. Énonçons donc en un mot le théorème holmésologique suivant. Plus c'est simple, plus c'est compliqué. Ce qui nous plonge dans des abîmes de réflexion dont nous ne sommes pas prêts de sortir. D'abord, contrairement aux apparences, ce théorème n'est pas en contradiction avec la pratique ordinaire des grands savants. Descartes examine un morceau de cire qui fond. Newton, couché sous un arbre, reçoit une pomme sur la tête. Détail doxo ? Oui. Mais ces génies en ont tiré d'admirables conclusions physiques et philosophiques. Ensuite, quoi de plus banal qu'une cueilleuse de mimosa ou un chat ? Et pourtant, René Char et Baudelaire ont su nous faire sentir toute la mystérieuse beauté du monde en les décrivant. Nous devons même aller plus loin. Rappelons-nous la célèbre répartie de Sherlock Holmes dans « Flamme d'argent ». Y a-t-il quelques détails sur lesquels vous souhaiteriez attirer mon attention ? Le curieux épisode du chien dans le courant de la nuit. Mais le chien n'a rien fait dans le courant de la nuit. Voilà bien ce qui constitue un curieux épisode, décréta Holmes. Non seulement l'absence d'aboiement, détail trivial, est un indice fondamental, mais ce détail lui-même est constitué par une absence. Et donc, plus un détail est visible, moins il est important. Moins on remarque quelque chose, plus la chose est essentielle. Plus c'est insignifiant, plus cela signifie. Moins un fait est noté, plus il est décisif. Et le détail le plus décisif sera celui qui n'est même pas énoncé. La meilleure interprétation du canon ne reposera pas sur ce que dit le canon, mais sur ce qu'il ne dit pas. La holmésologie est donc une science hautement philosophique, créative et poétique. À suivre.
À partir du moment où on postule que les aventures de Sherlock Holmes appartiennent au genre historique ou mémorialiste ou autobiographique, puisque les 56 nouvelles et les 4 romans sont les mémoires du docteur Watson, nous nous arrogeons le droit de lire les aventures de Sherlock Holmes comme étant des documents historiques, avec évidemment des erreurs volontaires de Watson, des dissimulations, des lacunes, des ellipses, des contradictions, et le travail de la holmésologie consiste à lever ces contradictions en étudiant, par exemple, l'horaire des trains d'arrivée à Strasbourg le 27 avril 1891. À Strasbourg, ils ont attendu l'arrivée d'un télégramme qui devait leur annoncer la capture de la bande de Moriarty, complète. En fait, la capture n'a pas été complète. Et ils sont repartis la nuit même, dit le docteur Watson dans Le Dernier Problème, qui est paru en 1894.
Pour aller en Suisse ?
Pour aller en Suisse, oui, pour aller jusqu'au fatal chute du Reichenbach à Meiringen. Ils ont repris un train, le train qui allait de Strasbourg à Genève via Bâle, qui était l'Orient Express, et qui partait à 3h50 du matin de Strasbourg. Alors, nous avons retrouvé l'heure d'arrivée du train de Bruxelles, qui est 4h23 de l'après-midi, comme on disait à l'époque. On ne disait pas encore 16h23, c'est seulement en 1911 qu'on a commencé à compter les journées de 24 heures pour les trains. Et nous avons recherché l'hôtel où ils étaient descendus, où se trouvait la poste des télégrammes, et ce qu'ils ont pu faire pendant de 16h à 4h du matin, ça fait à peu près 12 heures qu'ils ont passé, ou une dizaine d'heures qu'ils ont passé à Strasbourg.
Et alors, par exemple, pour ce passage donc à Strasbourg, comment vous avez procédé ? Vous faites une enquête, vous aussi, à votre manière. Vous procédez en faisant des recherches très approfondies sur tous les détails, les horaires, comme vous disiez, et les lieux. Expliquez-moi un peu, François Hoff.
Oui, c'est une enquête. Nous appliquons les méthodes de Sherlock Holmes lui-même à ses propres aventures. Alors là, le premier travail que j'ai fait, c'était d'aller à la Bibliothèque nationale de Strasbourg, j'habite à côté, pour chercher dans les journaux du jour ce qu'il y avait comme événement important. Pour savoir si, par exemple, ils n'arrivaient pas un jour où il se serait passé quelque chose de très important. Il ne s'est rien passé de très important, sauf que le grand cirque de Buffalo Bill était venu à Strasbourg 2 jours avant et on pouvait obtenir des photos de la représentation dans tel ou tel magasin du côté de la rue du Vieux Marché au Vin. Et le maréchal von Moltke était mort aussi, c'était un grand deuil, mais pas tellement pour les Alsaciens. Il y avait eu un assassinat à Bischwiller, un paysan qui avait étranglé son épouse à la suite d'une dispute et l'avait pendue à une solive du grenier. Mais ils n'ont pas eu besoin de Sherlock Holmes puisque les gendarmes de Bischwiller se sont rendus compte immédiatement qu'elle avait été étranglée avant d'avoir été pendue. Alors j'ai découvert plein de choses comme ça, merveilleuses et passionnantes dans le journal du jour. Et à partir de ça, je suis allé aux archives municipales et aux archives départementales pour retrouver les horaires de chemin de fer. Et j'ai aussi épluché les publications des universitaires strasbourgeois de cette année-là et de cette période.
Alors qu'est-ce que vous faites après ce matériel ? Vous ne créez pas une aventure ? Vous postulez ce qui aurait pu se passer ? Pourquoi ils étaient là ? À quoi ils se seraient intéressés ?
Il y a plusieurs branches dans la holmésologie. Il y a ce que je pourrais appeler la holmésologie interprétative ou historique à laquelle je me livre, c'est-à-dire retrouver la réalité historique sous les récits qui sont parfois affabulateurs du docteur Watson. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une holmésologie créative qui essaye de re-raconter ce qui s'est effectivement passé lorsque Watson et Holmes étaient à Strasbourg. Alors on en a déjà à peu près publié déjà 5 ou 6 versions, tout aussi authentiques les unes que les autres. Alors il y a eu l'aventure du vagabond épinglé, mais il y en avait pas mal. Dans les premiers numéros de notre revue Le Carnet d'écrou, il y avait déjà 3 ou 4 versions possibles de ce qu'ils ont fait pendant les 12 heures qu'ils ont passées à Strasbourg.
Mon cher Watson, je vous écris ces quelques lignes grâce à la courtoisie de M. Moriarty, qui veut bien attendre que j'aie terminé avant d'entamer la discussion finale sur les sujets qui nous opposent. Je suis heureux à la pensée que je vais pouvoir libérer la société des effets funestes de sa présence, quoique je craigne que le prix que je devrais payer pour y réussir fasse souffrir mes amis. Et spécialement vous, mon cher Watson.
Comme vous le savez, ma carrière en était arrivée de toute façon à un tournant, et aucune conclusion ne me paraît plus souhaitable que celle-là. Pour vous dire toute la vérité, j'étais convaincu que la lettre venant de l'hôtelier était un piège, J'ai pris les dispositions nécessaires concernant mes biens avant de quitter l'Angleterre. Je laisse tout à mon frère Mycroft. Au revoir. Bonne chance. Je vous prie de me croire, mon cher compagnon, très sincèrement vôtre, Sherlock Holmes.
Meringen. Cette petite ville de l'Oberland bernois, en Suisse allemande, est devenue un lieu de pèlerinage pour les Olmésiens, depuis que Conan Doyle y a situé dans le problème final la mort du héros, disparu avec son ennemi Moriarty dans les chutes de Reichenbach. Les chutes sont accessibles par un funiculaire dont le départ se trouve à la sortie de la ville. Devant la station, scellée sur un rocher, une plaque apposée par une société olmésienne du Minnesota témoigne de la célébrité internationale de l'endroit. Au sommet, une autre plaque marque le point précis où le duel Holmes-Moriarty est censé s'être déroulé. La ville de Meringen possède elle-même une statue de Sherlock Holmes et un musée dédié au grand homme. Curieusement situé dans le sous-sol d'une chapelle désaffectée, il comporte l'inévitable reconstitution du living room du 221B Baker Street.
Donc, Sherlock Holmes, citoyen d'honneur de Meringen, John Doubleday, créé en 1988, la statue de Sherlock Holmes. Elle le montre dans un état d'esprit pensif, seulement quelques heures avant sa dernière et fatale rencontre avec son ennemi, le Napoléon des criminels, le professeur Moriarty, le 4 mai 1891, près de la cascade de Reichenbach, à Meringen. Sur la statue ou en rapport avec elle sont dissimulés des indices, la plupart sous forme de symboles provenant d'une des 60 histoires de Sherlock Holmes. Ces symboles sont visibles, mais il faut faire preuve d'une grande attention et d'un bon coup d'œil pour les apercevoir. D'après ces indices, avec l'aide d'une bonne observation, il est possible de reconstituer une liste complète des histoires de Sherlock Holmes. Le tout est un défi et certainement un petit problème extrêmement étrange. Voilà, il y a un problème, il y a une énigme dans cela, et cela en face de la petite église, ouais. Donc,
on a encore une autre
anglaise.
Plaque. Là, on a notre plaque. Ça, c'est l'histoire de l'église.
Qui a été construite en 1868, voilà, ça, c'est ici. Qui a été transformé depuis 1988, justement la date de la statue, jusqu'en 1991, en petit musée. Parce que ça, c'est un, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des musées Sherlock Holmes. Il y en a deux en Suisse, à Lucent et ici.
Ouais.
Et puis, il y en a à Londres, il y en a deux aussi à Londres.
Ouais,
Baker Street et Baker dans Street. Un pub à Nottingham ouais. Street, je crois.
Mais moi, je trouverais rien contre le musée de Londres. Mais celui-là et Lucent, ils sont très, très authentiques et très, très vrais. On va rentrer dedans. Et puis, vous voyez ce que je veux dire pour son front room. C'est vraiment fait extraordinaire, vachement bien.
Sherlock Holmes Museum.
Ça commence déjà ici avec le grand grand émeraude de M. Doyle.
Le portrait de ouais. Conan Doyle, oui.
Là, on voit le timbre. Le timbre qui était vraiment lancé en anglais, qui sont vrais. Là, ah, il faut oui. voir les batailles. Là, c'est intéressant. Là, on voit la vie de M. Doyle. Là, on a tout le truc là. L'image. Ça, c'est une image d'Anthony Hallett. Voilà. Qui part dans l'époque, le chairman.
Qui a aidé à faire ce musée.
Et là, initiation et. Ouais. Et puis, ça, c'est l'architecte John Reed.
Et puis, la fameuse illustration de Paget.
Là, on trouverait le certificat de citoyen d'honneur. Ça, c'est vraiment super, hein.
Sherlock Holmes, avec des privilèges extraordinaires, notre citoyen.
Dans la vitrine, on trouverait les objets de l'époque. Là, on trouverait les lettres qui sont toujours encore écrites au Society, et quand il y a quelqu'un qui répond sur les lettres. Ça, c'est aussi authentique.
Oui, c'est vrai. C'est
vrai. Ouais.
Les lettres que les gens du monde entier envoient, oui, à Sherlock Holmes.
Et puis là, on avait un petit coin de M. Watson, là. Là, il était au Kandahar, en Afghanistan. On voit la boulette, il était blessé, et puis son
ordre. Les balles, oui, les balles que exact, Watson ouais. a reçues.
Et là, notre bijou, le front room
magnifique.
De notre ami Watson Holmes.
Voilà, une reconstitution, donc, avec tous les objets indispensables à une reconstitution de ce type. Là, on est rentré dans la reconstitution donc, du musée de Meringen avec... On s'y croirait presque, on se croirait dans l'Angleterre victorienne.
Ouais. Belle reconstitution.
Les architectes, ils ont fait une copie exacte des dimensions, l'auteur carré, les ornements, même les fenêtres. Ils ont son même histoire, son propre histoire. Et puis les lampes, même les journaux sont de cette époque. On a les choses vraiment qui sont authentiques. On voit le coin de travail de M. Holmes.
Avec un petit laboratoire de chimie.
Exact. Les choses spéciales. Et puis on voit le coin qui est plus organisé, je crois, que M. Watson. Et on voit les chemins.
Il y a même le feu, une sorte de feu qui brûle dans l'âtre. Ça, c'est une carte de la Suisse. Alors on voit les étapes de Sherlock Holmes et de Watson en Suisse.
Voilà, ils sont venus au bal présenter le passeport. Il était au Berne, chez le monsieur le conseil fédéral. Genève, Lausanne, Lucan, Montreuil, mis au Valais, Loège-le-Bain, Gemmipas, Kandersteg, Spiez, Interlaken, Brienz, Brienz-Rothorn, Meiringen et puis Schutten-Reichenbach.
Juste devant les chutes de Reichenbach. Elles sont impressionnantes, hein?
Ouais.
Alors on peut comprendre que ça a impressionné aussi Sherlock Holmes, ou bien Conan Doyle plutôt, de situer son histoire du dernier problème ici au chute de Reichenbach, puisque le site est assez impressionnant et assez incroyable. Hein.
Ouais, j'ai toujours touché avec ce point-là. C'était grâce à M. Doyle, être très polyvalent avec son travail, il a dit je veux terminer avec Holmes. Et c'est pour ça qu'il choisit le point de chute, heureusement ici, et pas au Cascade ou Genève, quelque chose, pour faire la dernière rencontre de M. Moriarty et Holmes. On voit le point, c'est l'endroit qui s'est passé, le point tragique.
Une petite étoile qui montre le point voilà, de la chute, du combat désespéré entre les deux personnages.
Alors, ils sont tombés dans le livre The Final Problem, ils sont tombés. Mais grâce à le lecteur du Strand Magazine, qu'ils ont réclamé très fort, ils porteraient des banderoles noires pour exprimer son grève, M. Doyle est persuadé de recommencer à écrire le livre. Et après, il a encore écrit 20 livres.
Une nouvelle sensationnelle, un attentat criminel contre Sherlock Holmes. Demandez le Times, attentat criminel contre Sherlock Holmes.
Tenez-moi un journal, vite, vite.
Voilà, monsieur.
Bon, je vais voilà. Dépêchez-vous.
Demandez le Times, une nouvelle sensationnelle contre
Sherlock. Deux individus armés de cannes ont attaqué Sherlock Holmes, qui a reçu de multiples coups sur le corps et sur la tête.
Comme Tintin.
Le rapport entre Hergé et Sherlock Holmes, j'ai lu et bien entendu les aventures de Sherlock Holmes, j'ai lu les aventures de Tintin, et je me suis rendu compte que Tintin avait une loupe, qui menait une enquête, et qu'il était appelé à 4 reprises, pas moins, Sherlock Holmes, par son entourage. D'abord c'est Milou qui lui félicite et qui lui dit « mais tu es un véritable Sherlock Holmes, Tintin ». Et plus tard, c'est Haddock lui-même qui remplace un peu Milou, finalement, le côté humain de Milou, qui dit « mais vous trouvez quelque chose, mon cher Sherlock », quelque chose comme ça. C'est une réplique dans les 7 boules de cristal, quand il mène l'enquête au moment de la disparition du professeur Tournesol. Donc c'est une évidence, c'est écrit par Hergé, donc il est appelé Sherlock Holmes, mais il y a après toute la famille de personnages de Tintin qui ressemble beaucoup à certains personnages de Sherlock Holmes. On trouve un méchant récurrent qui s'appelle Rastapopoulos chez Hergé et qui s'appelle Moriarty chez Conan Doyle. On trouve aussi des Dupont, les fameux détectives chez Hergé et qui représentent évidemment les Gregson, Lestrade et autres détectives qui sont toujours plus ou moins largués chez Sherlock Holmes, etc. Voilà, des familles de personnages comme ça.
On a des illustrations comme ça, des images aussi de films. Vous êtes amusé un petit peu à tirer comme ça les parallèles. C'est vrai que Tintin est un détective, donc déjà c'est le point de départ. C'est pas un peu tiré par les cheveux.
Non, parce que vous regardez. Est-ce que je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Le secret de la pyramide.
On voit un Sherlock Holmes junior. C'est ça, oui.
Exactement. C'est Sherlock Holmes jeune avec Watson jeune. Et en voyant ce film, je me suis toujours dit que c'était vraiment la transposition idéale de Tintin. Et il a vraiment des attitudes de Tintin, il court dans tous les sens, il est extrêmement dynamique ce Sherlock Holmes, il est évidemment pas drogué à cet âge-là, il se pique pas encore avec la cocaïne, etc., ce qui est très peu tintinophile, hein, tintinesque, et par contre il mène cette enquête et il est jeune. Et le producteur de ce film-là, non pas le réalisateur, mais le producteur, c'était comme par hasard Steven Spielberg, et Steven Spielberg s'apprête à adapter Tintin à l'écran, donc il n'y a pas de hasard.
Mais est-ce que Hergé a vraiment s'est inspiré de Conan Doyle? Est-ce que c'est un lecteur de Conan Doyle? Est-ce qu'il a avoué quelque chose en rapport avec le canon Sherlock Holmes où son inspiration a pu dévier?
Il ne l'a pas dit explicitement, mais on sait par un certain nombre de recoupements et de témoignages de biographes que Hergé était un gros lecteur de romans policiers. Il adorait ça. Et il fait allusion très directement à Sherlock Holmes dans plusieurs de ses bandes dessinées. Dans Tintin en Amérique, on voit un détective qui s'appelle Macadam et qui est supposé ramener Milou à Tintin, parce que Milou a été enlevé. Et le fameux détective ramène évidemment des tas de chiens, mais pas Milou. Et il fait des déductions absolument hallucinantes, mais qui sont fondées sur rien du tout. Et Tintin dit à un moment donné, mais c'est incroyable, je pensais qu'on ne pouvait voir ce genre de déduction que dans des aventures de Sherlock Holmes. Donc là, il y fait allusion très directement. Et juste à la fin, il se rend compte que ce détective Macadam est complètement bidon et que ses déductions sont fondées sur rien, et Tintin se dit, mais je pense que finalement je vais pouvoir faire la même chose ou même aussi bien moi-même. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, de Tintin en Amérique, que Tintin se découvre l'âme d'un détective, et voire même de pas n'importe quel détective, l'âme de Sherlock Holmes. Donc c'est écrit noir sur blanc dans les aventures de Tintin. Je me suis amusé à mettre dans la bouche des personnages de Hergé des dialogues de Conan Doyle, et réciproquement. Et c'est absolument hallucinant parce qu'on s'aperçoit qu'ils disent exactement la même chose au même moment, ils font les mêmes déductions, les mêmes reconnaissances d'objets, les recherches d'indices, donc voilà, ça on peut les cumuler, il y en a des tas tout au long des aventures de Tintin. Je présente une conférence, une animation conférence fondée justement sur ce principe de rime d'image, où je présente des dizaines d'exemples tirés des aventures de Tintin, où on voit Tintin en train d'analyser des indices et d'en tirer des déductions extraordinaires, comme le ferait Sherlock Holmes.
Il y a un point commun aussi, c'est l'énigme. L'énigme un peu étrange, cryptée, que déchiffrent l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de décryptologie, je ne sais pas comment on pourrait les dire, enfin, ce sont des experts en cryptologie de tout ordre un peu, ces deux personnages.
Oui, on va trouver ce genre d'analogie aussi. Tintin est confronté, non pas aux petits hommes dansant, bien entendu, mais à des messages cryptés, comme par exemple dans Le secret de la licorne, où on a un message qui est plus que crypté, il est même en trois parties qui se superposent, et c'est la superposition des trois parties qui décrypte le message. Au début du Lotus Bleu, il reçoit aussi par la TSF un message crypté, et il met du temps avant de le décrypter, avant de comprendre de quoi il s'agit. Et ils ont tous les deux la même attitude par rapport à cette phase de décryptage. Ils sont dans une espèce de phase de réflexion intense. On voit la tête de Tintin qui est surmontée par tout un tas de rouages et de mécaniques, et voire même d'équations, parce qu'on montre qu'il est en train de réfléchir. Et au moment où il a enfin trouvé la solution de son énigme, alors là il explose, il bondit de joie, il se met à courir dans tous les sens et il va vers la solution, comme le ferait Sherlock Holmes.
Oui, peut-être qu'on a oublié le côté très exubérant de Sherlock Holmes par moment. Il y a autre chose sur lesquelles on retrouve des parallèles, c'est l'utilisation ou la postérité peut-être de Tintin et de Sherlock Holmes, la réutilisation de ces histoires, les pastiches, les détournements. L'un et l'autre, c'est vrai, ont subi ce genre de transformation, de métamorphose et de prolongement.
Oui, on a une œuvre apocryphe qui est extraordinaire sur Conan Doyle. De toute façon, Doyle était d'accord, était consentant pour qu'on fasse un petit peu n'importe quoi, ce qu'on voulait avec son personnage. Et ses ayants droit actuels, puisqu'il y en a des ayants droit de Sherlock Holmes, ils sont ravis de voir que le personnage de leur ancêtre continue à vivre à travers ses œuvres apocryphes. Alors, il existe la même chose avec Tintin, puisqu'il existe à peu près, on va dire, allez, 200 bandes dessinées pirates, pastiches, parodiques, totalement, par contre, interdites et chassées comme des sorcières par la Fondation Boulinsart, qui ne veut absolument pas entendre parler de ces bandes dessinées apocryphes. Mais elles existent, et il y a même des choses de très grande qualité dans ces bandes dessinées, mais il y a des choses beaucoup plus médiocres. Mais enfin, il y a une œuvre apocryphe réelle sur Tintin, comme sur Sherlock Holmes.
Pourquoi l'un et l'autre, les deux personnages, c'est aussi un chapitre de Tintin à Baker Street, donc un petit livre que vous avez édité chez aux éditions McGuffin et qui fait ce parallèle entre Tintin et Sherlock Holmes. Pourquoi l'un et l'autre ont été aussi sujets à psychanalyse, à analyse? Soit on les voit sur le divan, soit ils ont fait l'objet de publications qui mêlent la psychanalyse à la littérature ou à la bande dessinée, et voire même il y a des aventures apocryphes qui ont été également sur ce sujet.
Oui, on comptabilise à peu près aujourd'hui 160 ouvrages écrits sur l'œuvre de Hergé. Quand vous pensez que Tintin, il a écrit 24 bandes dessinées en incluant le Tintin au pays des soviets et l'Alphard qui n'est pas terminé, et ces 24 bandes dessinées ont généré 160, sans parler des articles et des choses de moins épaisses, on va dire, 160 livres. Donc on n'a pas fini d'explorer et d'essayer de comprendre, d'une part, comment ces personnages-là ont été créés, quels ont été les influences de leurs créateurs et pourquoi ils suscitent un tel engouement auprès du public. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on peut comparer encore une fois Sherlock Holmes et Tintin. C'est la façon dont ils perdurent dans les esprits et qui touchent autant de public et autant de générations, parce que Tintin ça fait quand même plusieurs générations et Conan Doyle une de plus ou deux de plus. Donc oui, une œuvre apocryphe et des études à n'en plus finir. On n'a pas fini de comprendre le mystère du génie des créateurs et de leur œuvre.
Vous avez transformé ce qui aurait pu être une série de conférences en une série de petites histoires.
Alors là, franchement, je ne crois pas que mes pauvres écrits méritent cela. Et c'est grâce à eux, après tout, que vous êtes un homme mondialement connu.
De toute façon, mon cher Watson, pourquoi voulez-vous que le public, qui n'a aucun sens de l'observation, qui ne reconnaîtrait pas un tisserand grâce à ses dents, pas un compositeur grâce à son pouce gauche, pourquoi le public s'intéresserait-il aux finesses de l'analyse et de la déduction? Mais bien sûr, je ne peux pas vous en vouloir d'être superficiel, puisque le temps des grandes affaires est passé.
Si on parle cette fois non plus de Sherlock et de Tintin, mais de leur Deus Ex Machina, Conan Doyle et Hergé, ils ont tous les deux, quelque part, créé des monstres qui leur ont échappé à un moment donné. Dans la biographie de Benoît Peters, on apprend que Hergé écrivait à un moment donné à certains de ses amis ou à sa femme, je crois, « Je hais Tintin ». Il détestait Tintin. Il avait une overdose de Tintin. Il n'en pouvait plus de ce Tintin. Parce que Tintin occultait sans doute une partie de sa propre personnalité. Hergé rêvait à un moment donné d'être peintre. Non pas dessinateur, mais peintre. Il a d'ailleurs fait quelques tableaux vraiment superbes. Et sans doute que Tintin occultait une partie de ce talent où il aurait voulu exploser pour autre chose que ce petit personnage à loupette qu'il avait créé à la va-vite alors qu'il était jeune en 1929. Et on représente, et Hergé s'est représenté lui-même enchaîné à sa table de travail avec un costume de forçat et un boulet au pied. C'est quand même pas banal comme façon de s'enchaîner à son personnage. Et Tintin veille sur lui avec un fouet à la main. Donc ça veut tout dire. Et figurez-vous que quelques années avant, Conan Doyle a été représenté exactement dans la même situation. Non pas devant une table à dessin, bien sûr, puisqu'il ne dessinait pas, il écrivait, mais on le voit assis, enchaîné, pareil, avec un boulet au pied. Et le commentaire sous ce dessin-là, c'est Conan Doyle, donc victime de son héros et prisonnier de son héros. Il détestait cordialement Sherlock Holmes, il ne voulait pas écrire sur Sherlock Holmes, et c'est son éditeur qui est venu le rechercher par la main en lui disant « Mais tu l'as fait mourir, c'est tout à fait politiquement incorrect, il faut absolument que tu le ressuscites et que tu refasses des aventures sur Sherlock Holmes. » On lui a donné un pont d'or, et il ne s'attendait vraiment pas à ce que son éditeur lui fasse une telle offre, et finalement il a craqué pour quelques dizaines d'aventures de plus. Donc exactement comme Hergé qui a commis peut-être quelques aventures de Tintin de trop.
comme Tibet.
Sherlock Holmes a disparu du 4 mai 1891 au 5 avril 1894. On appelle cette lacune le grand hiatus. Disons-le tout net, ces deux phrases contiennent à peu près l'ensemble des données sur lesquelles les holmésologues s'accordent, comme pour un règne mérovingien ou pharaonique. Deux termini et un nom. Les thèses les plus diverses ont été soutenues, des conjectures probables aux plus évanescentes élucubrations. Sherlock Holmes partage cet honneur douteux avec la princesse Anastasia, Louis XVII, les statues de l'île de Pâques et Marilyn Monroe. Sherlock Holmes aurait été chargé par Mycroft de retrouver la pierre noire volée par les Kalmouks au Dalaï Lama, qu'il avait reçue du roi du monde, alias le prêtre Jean. Holmes se renseigne au Tibet, puis recherche cette pierre noire en Perse, à la Mecque, la Kaaba, au Soudan, chez le prêtre Jean, et la trouve enfin à Montpellier. Il va de soi que son statut d'initié en alchimie l'oblige à garder le secret devant Watson. Nous nous proposons d'établir, une bonne fois pour toutes, l'authenticité du récit de Holmes en nous penchant sur l'épisode exemplaire des deux années au Tibet. Après un rappel des faits et des objections qu'ils ont suscitées, nous établirons les motivations réelles de son voyage, en nous plongeant dans la passionnante histoire de la politique et des explorations anglaises dans l'Himalaya à la fin du XIXe siècle. Nous terminerons par une reconstitution aussi précise que possible du voyage et du séjour tibétain de Holmes. Deux ans au Tibet, Sherlock Holmes et les secrets du Foreign Office, par François Hoff, gardien-chef des évadés de Dartmoor.
Et lorsque Sherlock Holmes réapparaît, il dit que, premièrement, il n'est pas mort aux chutes du Reichenbach, bon ça, on le constate aussi, qu'il a passé deux ans au Tibet, qu'il s'est entretenu avec le chef lama, il dit pas le Dalai Lama, mais avec le chef lama, qu'ensuite il est allé à Khartoum, donc au Soudan, à l'époque où il était sans doute absolument impossible d'aller à Khartoum, puisque c'était la grande révolte du Mahdi, et qu'il est aussi, il est allé également à la Mecque, et qu'il a terminé ce parcours de deux ans en faisant des études sur les dérivés de la houille à Montpellier.
La houille.
La houille, du charbon, oui. Alors voilà, ces deux années au Tibet posent un grave problème à la holmésologie. Il y a eu une masse énorme d'écrits sur les hypothèses, donc quelque chose qui n'est pas raconté. Évidemment, c'est ce qui stimule tout particulièrement la recherche holmésienne. Certains disent qu'il s'est marié avec Irène Adler, la cantatrice qui se joue de lui dans un scandale en Bohème. D'autres qu'il est allé s'installer à Chicago pour aider la police. Et il y a eu toutes sortes d'hypothèses qui ont été formulées. Notre hypothèse, puisque nous sommes quand même assez, j'oserais pas dire intégristes, mais plutôt fondamentalistes ou littéralistes en ce qui concerne notre interprétation du canon, c'est qu'il est effectivement allé au Tibet. Alors, en comparant et en recoupant et en critiquant les différents récits de voyage publiés à cette époque-là, je suis arrivé à reconstituer l'itinéraire de Sherlock Holmes, puis j'ai cherché qui il a pu rencontrer au Tibet, à l'époque, parce que c'est une époque de l'histoire du Tibet qui est tout particulièrement agitée et passionnante, puisque toute la région, la frange sud de l'Himalaya et du Pamir et de l'Hindou Kush, était le terrain d'une espèce de guerre larvée entre espions anglais et espions russes.
Le grand jeu.
Le grand jeu, voilà. Le Greed Game. Les Russes essayant, après la conquête du Turkestan, de s'engager toujours plus vers le sud, et les Anglais s'efforçant d'assurer les frontières nord en conquérant l'Afghanistan, par exemple. Et donc Sherlock Holmes a de toute évidence été pris comme dans le grand jeu, comme un agent de sa très gracieuse majesté, l'impératrice des Indes. D'autant plus que le frère de Sherlock Holmes était une espèce d'éminence grise pour le gouvernement anglais, Mycroft Holmes, qui était un
pratiquait la synthèse des informations, pas pour Downing Street, mais pour le...
Pour l'amirauté.
Pour l'amirauté, oui, pour le ministère des Affaires étrangères. Donc Mycroft, sachant que Holmes, que Sherlock était encore vivant, lui a envoyé de l'argent à Florence. Puis Sherlock a pris le bateau, ça prenait à peu près un mois pour se rendre en Inde. Et à partir de là, il est parti vers le nord, vers le Tibet, et il a très certainement rencontré Kim, le héros du roman du même nom, de Kipling.
Il a rencontré Rudyard Kipling, apparemment, également.
Oui, oui, c'est ça, mais pas longtemps. Pas longtemps, et ils ont discuté littérature, certainement, mais ils n'avaient pas tout à fait les mêmes conceptions.
Depuis que je connaissais intimement, enfin le croyais-je, Sherlock Holmes, je ne l'avais jamais entendu faire une allusion quelconque à ses relations ou aux événements, disons, personnels de sa vie. Et cette réticence m'avait conduit à le considérer comme un phénomène unique en son genre, aussi froid dans ses rapports humains qu'il était brillant dans le domaine intellectuel. Donc, j'en avais déduit qu'il était orphelin et sans parents proches ou lointains. Mais un jour, à ma grande surprise, il se mit spontanément à me parler de sa famille.
Mon don si développé pour l'observation et la déduction me viennent sans doute de ma grand-mère, qui était la sœur de Vernet, le grand peintre français. Le don artistique peut parfois déborder dans d'autres domaines sous d'étranges formes, comme par exemple chez mon frère aîné, Mycroft.
Votre frère? J'ignorais que vous aviez un frère.
Eh oui. Et je dois vous avouer qu'il possède bien plus de facultés d'observation et de déduction que son cadet.
Holmes, je sais à quel point vous êtes modeste.
Ah, mon cher Watson, je n'ai jamais été d'accord pour mettre la modestie au rang des vertus. Pour le logicien, chaque chose doit être ce qu'elle est et rien d'autre, et se sous-estimer soi-même est aussi stupide que de vouloir exagérer le niveau de ses capacités. Ce que je viens de vous dire sur mon frère est l'exacte vérité sans plus.
Je ne mets nullement votre parole en doute, cher ami. Mais s'il y avait en Angleterre, en dehors de vous, un homme possédant de tels dons, comment se fait-il que ni la police ni le public n'en aient entendu parler? À commencer par moi-même.
Mais il est très connu dans son milieu.
Lequel?
Dans le Diogène Club. Le club le plus curieux de Londres, et dont Mycroft est l'un des membres les plus curieux. Je suppose que vous aimeriez le rencontrer.
Très volontiers.
Ne serait-ce
que pour avoir la preuve de son existence.
Vous l'aurez. Aujourd'hui même, il est confronté à un singulier problème qu'il croit devoir m'intéresser.
Mais pourquoi votre frère n'utilise-t-il pas ses dons pour être détective?
Si la profession de détective consistait à se tenir le front confortablement installé dans un fauteuil, il serait le meilleur policier privé du monde. Mais ce qui est pour moi un moyen d'existence ne serait pour lui qu'un art de dilettante. Il n'a ni énergie, ni ambition.
Alors, de quoi vit-il?
Il a toujours été plus que surdoué pour les chiffres. Il est expert à la commission des comptes de la nation.
Thank you.
A comme acteur.
Vous êtes toujours d'une humeur épouvantable quand vous choisissez de fumer cette pipe. Il me semble vous avoir tout à fait rendu justice en la matière.
Oh, non, 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 et ce n'est en rien de la vanité ou de l'égoïsme. Si je veux qu'on rende justice à mon art, c'est parce que le crime est commun et la logique est rare. C'est donc beaucoup plus sur la logique que sur le crime que vous auriez dû concentrer vos efforts. Vous avez transformé ce qui aurait pu être une série de conférences en une série de petites histoires.
Pour moi, c'est le Sherlock Holmes définitif. Hein, c'est celui que je me représente. Alors peut-être que des puristes vont sauter au plafond et dire non, pas du tout, c'était Peter Cushing ou je ne sais qui. Moi, c'est celui-là. C'est comme ça que je me le représentais, un peu décalé, un petit peu... Il est arrogant, mais en même temps, on sent une espèce de fêlure, une faiblesse énorme chez ce personnage-là. Il m'intrigue, il m'inquiète et j'avais envie d'écrire quelque chose dans la veine de Jeremy Brett. Et pour en revenir à ce Jeremy Brett, justement, donc c'est la première fois où je l'ai vu sur un écran interpréter Sherlock Holmes, ça a été vraiment une grande claque et je suis resté scotché longtemps, j'ai regardé toutes ses interprétations. Savez-vous qu'avant d'interpréter Sherlock Holmes, il a interprété Moriarty? Donc il y avait véritablement une...
L'ennemi juré de Sherlock Holmes.
L'ennemi juré de Sherlock Holmes, le Rastapopoulos de Tintin, le Moriarty de Sherlock Holmes. Et donc c'est Jeremy Brett qui incarne à la fois le côté obscur et le côté positif et le côté négatif d'un même personnage qui pouvait interpréter à la fois Moriarty et Sherlock Holmes. Lui l'a fait et c'est pour ça que je pense moi que c'est le Sherlock Holmes définitif. Ce qui est le plus parlant dans son attitude et dans son personnage, c'est les ailettes de son nez. Si vous regardez la façon dont bougent les ailettes de son nez, pratiquement tout le personnage peut être statique, ne pas bouger le visage fixe, mais par contre, il y a juste les ailettes du nez qui bougent. Et là, vous vous dites qu'il y a une espèce de, comment dire, une énergie rentrée ou une... Enfin, je sais pas, il exprime des sentiments à partir juste des mouvements des ailettes de son nez, ce qui est quand même extraordinaire. Donc voilà, Monsieur Spock, c'était plutôt le bout de ses oreilles. Lui, c'est les ailettes du nez. Je trouve ce personnage extraordinaire pour ça. Il n'a pas besoin de bouger, d'en faire des tonnes, de sauter dans tous les sens pour montrer ses sentiments et faire passer une énergie incroyable à l'écran. Et
la série avait d'autres qualités quand même.
Oui, ben bien sûr, déjà le Watson était moins ridicule que ce qu'il a pu être dans certains films du passé, parce qu'on a souvent considéré que Watson était un personnage ridicule et le faire-valoir de Holmes. Là, c'est pas le cas. Donc ici, Watson est bien, l'ensemble des personnages, y compris Madame Hudson, sont bien, tous les personnages sont bien campés, mais ce Sherlock Holmes lui-même, il a ce côté fier, ce côté noble, mais un peu arrogant, et un petit peu provocateur aussi, qui est quelque part un petit peu un révélateur de sa propre faiblesse. Parce qu'on le sent pas si sûr que ça de lui, on le sent un peu douté de sa personne, et dès qu'il est plus mis en scène, et dès qu'il est plus en train de résoudre une enquête et de se faire valoir de cette façon-là, il est rien, il est plus rien.
C'était quoi ce soir? Morphine? Ou cocaïne?
Eh bien... J'ai fait l'essai d'une solution à 7% de cocaïne. Voulez-vous l'essayer?
Non, merci. Je vous parle non seulement en médecin, mais aussi en ami. Comment risquer consciemment de causer de tels dommages à une pareille puissance intellectuelle? C'est incompréhensible.
Il y a quelque chose qui clarifie et stimule l'esprit.
Oui, et qui peut le détruire. Et vous le savez très bien.
Mon esprit se rebelle contre la stagnation. J'ai besoin d'une exaltation mentale.
Jeremy Brett, alors c'est un acteur qui travaille évidemment, qui a fait une série, donc qui a fait toutes les adaptations, parce que je crois que tout a été adapté, le canon et puis les romans étant adaptés. C'est évidemment notre maître à tous. Toutes les sociétés holmésiennes, je parle évidemment de sociétés holmésiennes, conservent l'esprit feu, l'esprit de Jeremy Brett, qui a été un Sherlock Holmes à la fois dandy, cabotin, cabochard, splendide, y compris à la fin, quand on le voyait un peu malade et qu'il était un peu gonflé. Mais chaque fois qu'on le voit, on lit les textes, ou presque. Parce que nous sommes évidemment dans chaque image, in extenso dans le texte.
Je crois que j'ai suffisamment souffert par la faute de mon malheureux ancêtre. Aussi, Aussi, je vous envoie le portrait disparu que Stapleton avait caché dans sa ferme afin que vous l'ajoutiez à votre célèbre collection de souvenirs. J'espère que vous l'accepterez, ainsi que le chèque 6 juin de la somme de... comme il est généreux. Eh bien, après le thé, il faudra écrire à Sir Henry pour lui dire que j'accepte et que je le remercie pour ces deux cadeaux. Dites-moi, Holmes, depuis quand soupçonniez-vous la vérité sur cette sombre affaire?
La vérité?
Oui, que le chien, en fait, était un chien en chair et en os au lieu d'être un mythe.
Ah, lorsque Sir Henry s'est plaint d'avoir perdu son soulier, ça m'a mis déjà sur la piste.
Ah, ah oui, si tôt que ça. Ah, c'est incroyable.
Élémentaire.
Élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire.
Sherlock Holmes dit plusieurs fois « c'est élémentaire » dans les textes, mais en fait, l'expression « élémentaire, mon cher Watson » a été inventée dans un film de 1939. Et là aussi, elle s'est répandue comme s'il avait effectivement prononcé cette phrase. Donc c'est comme la casquette à double visière, et c'est aussi comme la fameuse pipe calabache qu'on représente souvent dans la bouche de Sherlock Holmes, c'est-à-dire une pipe tordue en forme de point d'interrogation. Là aussi, le canon parle de plusieurs pipes de Sherlock Holmes, dont une en merisier. Et enfin, il y a toute une recherche à faire sur les ustensiles qui servaient à l'addiction tabagique de Sherlock Holmes. Mais en fait, c'est un comédien qui, devant jouer le personnage de Sherlock Holmes, était obligé de parler en ayant une pipe à la bouche. Or, la seule solution pour cela, c'était de prendre une pipe de ce type. Ça lui permettait de parler tout en gardant la pipe à la bouche.
C'est avec tristesse que je prends ma plume pour écrire ces quelques lignes. Ce seront les derniers mots par lesquels je décrirai les dons exceptionnels qui faisaient de mon grand ami, M. Sherlock Holmes, un être extraordinaire. Je le considérerai toujours comme le meilleur et le plus sage des hommes que j'ai jamais connus.
Sherlock Holmes, un lexique savamment désordonné par Bruno Seriba et David Collin, et une énigme à résoudre si vous avez bien suivi l'émission et les initiales qui, bien assemblées, devraient reconstituer le pulse de deux Sherlock Holmes. Les bonnes réponses recevront, selon leur degré d'exactitude, des carnets Moleskine marqués du sceau d'espace 2, une copie de l'émission sur CD, et si la réponse est vraiment parfaite, une petite surprise holmésienne. Pour nous écrire votre réponse ou vos réactions, sonar@rcr.ch ou émission sonar, espace 2, Radio Suisse Romande, 40 avenue du Temple, 1010 Lausanne, Suisse
pour ceux qui nous écoutent de l'étranger ou sur Internet. Merci aux nombreux invités de cette émission. Jacques Baudou, Paul Gaillot et Éric Poindron dans la région de Reims. Pierre Bayard, Bob Garcia et Fabrice Bourland du côté de Paris. François Hoff à Strasbourg et en Suisse, Vincent Delay à Lucan et Ferdinand Salverda à Meringen et aux chutes de Reichenbach. Lecture Isabelle Kercelès et Jacques Roman. Cette émission est écoutable ou téléchargeable sur le site sonar.rsr.ch ou sur espace2.ch qui vous donnera aussi les détails des publications de nos invités et les sites à consulter pour compléter cette émission. La semaine prochaine, une émission autour d'Israël aujourd'hui à l'occasion des 60 ans de l'État d'Israël, ce 14 mai prochain. Bonne soirée à l'écoute d'Espace 2 et tout de suite, musique aujourd'hui d'Angio.
Les 11 et 12 mai, à la salle Métropole, Christian Zacharias sera à la tête de ses troupes de l'Orchestre de Chambre de Lausanne pour un programme mettant à l'honneur tour à tour les cordes et les vents. Les cordes ouvriront les feux avec les études de Franck Martin, puis, après les Altenberg Lieder d'Alban Berg, ce sera au tour des souffleurs de se mettre en valeur dans la Grande Partita de Mozart. Co-producteur de ce 9e programme d'abonnement de l'OCL, Espace 2 vous propose de le vivre en direct sur ses ondes, mardi 12 mai dès 20h.